Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va réfléchir un petit peu sur ce thème de la colère. Déjà, il faut bien préciser que on parle de la vraie colère, la colère qui est feinte, si on fait semblant devant les employés ou alors devant la communauté ou devant les enfants de se mettre en colère. On ne parle pas de cette colère-là. Cette colère-là, elle est permise. On parle de la colère où la personne, elle perd le contrôle d'elle-même. Et c'est celle-là qui a des conséquences néfastes. Et c'est celle-là qu'on va essayer de réfléchir ensemble, comment la comprendre et Bezrat Hashem, comment la traiter. Mais pour ça, il faut voir ce que les Chachamim, ils ont proposé comme sujet de réflexion sur le principe. C'est marqué « Amar Rava Baravuna, Kola Koes Afilu Shkina Ena Chashuva Kelegdo » Tout celui qui se met en colère, même la Shekhina, même la présence divine, elle n'est pas importante devant lui. C'est difficile de comprendre comment quelqu'un, il peut arriver à un niveau de telle remise en cause que même Dieu, il n'a plus d'importance devant lui. Ouais. Afilu Shekhina Ena Chashuva. Après, c'est marqué Rabbi Yirmiya Midifti Omer. Meshachéar Talmudo, Omosif Tipshut. Il oublie son étude et il augmente sa bêtise. Il faudrait voir quel rapport il existe entre la bêtise et la colère. Pourquoi quelqu'un, plus il est coléreux, plus il est idiot? Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut avoir un QI très, très puissant. Et à part ça, il est coléreux. Non, ici, c'est marqué quelqu'un qui. Mais si vous remarquez bien, il n'y a pas écrit qu'il oublie sa sagesse. Il y a écrit qu'il oublie la Torah. Donc la Torah, elle disparaît quand la colère apparaît. Il faudra voir le rapport qui existe. Après, c'est marqué Rabbi Nachman Bar Yitzhak Omer, Beyadoua She'avonotav Merubin Misruyotav. Quelqu'un qui est coléreux, c'est sûr que ses fautes sont plus nombreuses que ses mitzvot. Ça veut dire que c'est sûr qu'on parle d'un rachat. On parle de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Là aussi, quel rapport? Okay, il peut être un tzadik. Il peut faire toute la faute comme il faut dans le Shulchan Aruch. Mais à part ça, il est coléreux. Non, les Chachamim pensent que c'est incompatible. C'est marqué aussi Kol Mine Geinam Sholtimbo. Toutes sortes d'enfer, elles règnent sur le coléreux. Le Geinam, normalement, c'est après la mort. Alors, est-ce que quelqu'un, il peut vivre l'enfer de son vivant? Déjà, il est dans l'enfer de son vivant. C'est marqué Kol Mine Geinam Sholtimbo. Toutes sortes d'enfer résident sur lui. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement grave. Comment le définir? Comment ça fonctionne? Et si on le comprend? Évidemment, ce n'est pas seulement de comprendre la technique de la colère, c'est de comprendre à l'intérieur de soi comment ça fonctionne. Après, essayer de voir comment on peut lutter contre ça. Parce que si je vous donne la maladie et je ne vous donne pas l'antidote, c'est dommage, vous allez souffrir. Alors, en fait, tout ça, c'est un passouk dans Yov. Il y a un seul verset qui donne tout le sens profond de la colère. C'est marqué « Toref, nafsho, be'apo ». Il déchire, nafsho, alors on traduit son âme, on traduit son être, be'apo dans sa colère. C'est-à-dire que quelqu'un... Il se détruit lui-même, oui, il s'annule lui-même. Toref, c'est le langage qu'on emploie normalement quand une bête sauvage, elle déchire une proie. Un lion, il est toref. Alors, ça veut dire que quelqu'un, il prend son être, il le déchire. Oui, dans le langage des jeunes, ça c'est quelque chose qui veut casser la figure. Avant, nous on disait, je vais te casser la figure. Maintenant, ils disent, je vais te déchirer. Mais qu'est-ce que t'as déchiré? Tu prends une feuille de papier, tu la déchires. Comment tu déchires quelqu'un? C'est bizarre. C'est-à-dire que c'est un langage encore plus violent. Alors maintenant, quand ce langage, il s'applique à la personne elle-même. Elle-même, la personne, c'est marqué « Toref Nafsho Beapo ». Alors comment ça fonctionne? Alors si on remarque, si on observe, et chacun il peut le faire, même s'il n'a pas un très haut niveau d'analyse de psychologie, et remarque que celui qui est en colère, premièrement, quand la personne, elle rentre dans le statut de la colère, déjà on ne la reconnaît pas. C'est comme si dans l'échantillonnage de toutes ces attitudes, il y a une autre qui est apparue qui n'a rien à voir. Oui, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Oui, on sait que quelqu'un, il est à peu près comme ça, il est à peu près comme ça. Mais là, dans la colère, il est quelqu'un d'autre. On ne le reconnaît pas. Pire encore, même lui, il ne se reconnaît plus. Bon, lui ou elle, moi je parle au masculin parce que je parle pour moi. Mais une femme aussi, elle peut être coléreuse, d'accord? Donc la personne elle-même, elle ne se reconnaît plus. Et elle-même, on dit en français, elle-même, elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même. C'est-à-dire, quand elle n'est plus elle-même, elle est qui? Les vieux, vous regardez les yeux du coléreux, au moment de la colère, c'est la folie. Il est devenu fou. Et c'est un truc bizarre. C'est une personne avant la colère, c'est une personne après la colère, et pendant la colère, c'est encore une autre personne. Plus aucun contrôle. Des fois, pire encore, ça a même un effet amnésique. C'est-à-dire que la personne, elle se rappelle même plus ce qu'elle a fait. Elle se rappelle même plus ce qu'elle a dit. Elle comprend même pas de quoi tu parles. Mais de qui tu parles? Mais je parle de toi. Regarde, toute la salle à manger, elle est cassée. Regarde, leurs enfants, ils sont traumatisés. Regarde, ta femme, elle pleure. Regarde, ton mari, il est usé de tes nerfs. Ouais. Et l'autre, il comprend pas. Il dit, bon, ça va, moi j'ai crié, ça va, j'ai crié, bon, ça va, on passe à autre chose. Après Hiroshima, il n'y a plus rien qui pousse. Comment quelqu'un, le coléreux ou la coléreuse, elle croit qu'on peut tourner la page? Mais c'est moi la page, comment tu vas tourner la page? Ouais. Et cette idée-là qui fait apparaître que dans la colère, la personne, on dirait qu'elle disparaît. Et après, elle revient. Même les goyim, ils disent en français, ils disent après qu'il ait retrouvé ses esprits. Ouais. Genre, maintenant, les esprits, ils sont partis. Chif halam, ils ont disparu. D'un seul coup, ils reviennent. C'est pas possible, t'es ici. Ouais. Pour ça que j'adore cette phrase-là. On dit en français, ça doit exister en italien aussi. Quelqu'un, il dit, oh, vous savez, oh, tu sais, tu m'as mis hors de moi. Tu m'as mis hors de moi. Mais c'est très bizarre, ça, ce langage. Parce que quand tu es en toi, je sais où tu es, mais quand tu es hors de toi, tu es où? Pourquoi il y a un corps? Le corps, ça aide, parce qu'on sait qu'on parle à la personne qui est en face. Par exemple, moi je parle, vous voyez que le son il sort à peu près de ma bouche, donc vous dites sûrement que le type il doit être en face. Mais imagine, si je parle là, mon corps il est là, et la voix elle sort de là-bas. Vous allez dire, attendez, c'est un film américain, c'est quoi ça? C'est des effets spéciaux. Alors quand la personne elle n'est pas en elle-même, puisqu'elle dit elle-même, je suis hors de moi, alors moi je ne sais pas à qui je parle. À qui je parle? Avec qui je vis? Ouais. Comme si, Chas v'Shalom, quelqu'un, il a découvert un adultère. Ouais. Alors maintenant, le vrai problème, à part l'angoisse, à part la trahison, à part le dégoût, mais il y a un vrai problème, c'est la confiance. Je ne sais pas avec qui je suis marié. Moi, je croyais que c'était un monsieur comme ça, finalement, c'est un autre monsieur. Moi, je croyais que c'était une madame comme ça, finalement, il y a une autre vie. Moi, je croyais que j'avais elle et moi, et les enfants, la famille, et je découvre une autre personne, un autre téléphone, des soirées, des disparitions, des mensonges. Alors je dis, mais il y a quelqu'un d'autre. C'est déstabilisant. Le monde, il s'écroule parce qu'il y a une autre vie. Il y a une autre vie dans la vie. Il y a une autre vie dans la vie. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Le coléreux, la coléreuse, c'est une autre vie dans la vie. Parce que cette personne-là, je ne la connais pas. D'où il sort? C'est quoi ces états-là? C'est quoi? C'est des nerfs, c'est des déchirures, c'est des cris, c'est des trucs hystériques, on parle encore une fois, oui. Donc ça n'a rien à voir, mais d'où il sort? D'où elle sort cette personne? Je ne la connais pas. Et cette notion-là, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête. Je vous donne des petits éléments, après quand on va relier l'image d'ensemble, vous allez voir si vous en tâchez clairement. Après c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, Dafmem Aleph, Ragzan, Loralta, Beyado et la Ragzanuta. Le coléreux, il n'a dans sa main que la colère. Ça veut dire, on ne gagne rien en la colère. Jamais quelqu'un, il est venu, il a dit, j'ai gagné quelque chose. Au moment de la colère, oui, quelqu'un, il croit que ça lui fait du bien. Ils appellent ça en français un défouloir. Après la colère, il croit que ça lui rapporte quelque chose, parce que le cerveau, il a une capacité de fabriquer à la vitesse de la lumière des justificatifs pour ne pas avoir à se remettre en cause. Oui. Donc comment savoir quand tu es vrai et quand tu es sincère? Puisque après que tu as fait une lourdeur, après que tu as menti, après que tu arrives en retard, après que tu as dit une bêtise, ton cerveau, il peut fabriquer un argument. Mais à une vitesse incroyable. Je vous dis la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, ça veut dire que tout de suite, la personne. Pourquoi? Simplement pour ne pas subir le malaise de la remise en cause. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai tort. Ça veut dire je suis bête. Ouais. Et c'est un gros problème. Ça s'appelle l'ego. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est l'ego. L'ego. Maintenant, l'ego, c'est un système un peu carré qui s'emboîte les uns dans les autres. On en a fait un jeu, ça s'appelle les Lego. D'accord? C'est cumul des Lego. Mais non, mais l'ego, il faut le gérer. Il faut le maîtriser. Ouais. Sinon, tu ne sais pas où il peut t'amener. Tu ne sais pas comment il peut te détruire. Et le pire de tout, c'est que la personne que tu défends dans l'ego, c'est même pas toi. C'est très bizarre. En français, on appelle ça l'amour propre, alors qu'il n'y a rien de plus sale. L'amour propre, c'est le propre amour. Genre, tu t'aimes à toi, mais regarde les problèmes, regarde tous les problèmes qui t'amènent l'amour propre et tous les avantages qui t'amènent. Alors, tu défends quoi? Tu défends qui? Quel intérêt? Et cette logique-là, c'est ça. Il dit, quelqu'un, il croit qu'il a gagné dans la colère, il n'a rien gagné. Rien. Il dit, mais ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé. Mais les Chachamim, ils disent, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois toujours calculer qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Maintenant, si tu vois que tu perds beaucoup plus que ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? C'est toute la journée, c'est des calculs. Ouais, je mens, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Je dis la vérité, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Quand je dis la vérité, je perds, parce qu'au niveau amour propre, je me rabaisse. Mais au niveau je gagne, c'est que ça fonctionne, ça marche. Les gens, ils me comprennent, ils me croient. Quand je mens, je gagne tout de suite parce que les gens, ils me croient. Mais après, ils se rendent compte que je suis un menteur, donc ça ne marche plus. Donc, à court terme, le mensonge, ça marche. Oui. Mais à long terme, la vérité, ça marche. Donc, en vérité, il faut choisir. Est-ce que tu fonctionnes à long terme ou est-ce que tu fonctionnes à court terme? Et cette logique-là, c'est ça. L'oralta, ragzan, l'oralta biyado et la ragzanuta. C'est rien que l'excitation. C'est rien que les nerfs. C'est rien que les cris. Genre, tu t'es excité comme ça. Tu t'es excité et après, il n'y a plus rien après. Après, tu as traumatisé ta femme, tu as traumatisé ta famille, tu as traumatisé tes employés, tu as traumatisé ton entourage. Tu n'as rien gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Oui, tu n'as rien gagné. Et quelqu'un, il va dire, ah ben c'est pour faire avancer les choses. Je mets un peu la pression. Ah bon, c'est connu que l'orgueil, c'est la force des faibles. Ce qu'on appelle en psychologie le GG. GG, c'est la grande...
C'est là.
La grande... Le GB, la grande bouche. Quand quelqu'un écrit fort, ouais, il a l'impression qu'on va l'écouter plus. Au contraire, on va l'écouter moins. Parce que si quelqu'un est obligé de crier fort, c'est sûr qu'il dit des bêtises. Parce que la vérité, elle n'a pas besoin des cris pour passer. Donc quelqu'un qui en rajoute, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Donc plus il crie, plus tu es sûr qu'il n'est pas sûr de lui. Plus il emploie des artifices, plus il emploie des systèmes extérieurs, plus il emploie des mouvements, et plus il emploie des trucs théâtrales, eh ben je m'en vais, eh ben je vais mourir. Il y en a un, ça fait 10 ans qu'il essaye de faire croire à sa femme qu'il va se tuer. Alors son beau-frère, il m'a appelé ce matin, il m'a dit, écoute, il a envoyé des textos à tout le monde, à toute la famille, qu'il va se tuer. Mais il ne s'est pas tué. Après, il a demandé à sa fille, qui c'est qui a appelé? Il y a des fantasmes comme ça. Ouais, c'est comme les gens, on dit, un des plus grands fantasmes de quelqu'un, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va dire de lui après sa mort. Et il rêve d'assister à son enterrement. Il y en a qui expliquent comme ça la mort de Michael Jackson. Il paraît qu'il est venu à l'enterrement lui-même. Ouais, il n'est pas mort. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est un fantasme. Et bien comme il y a un fantasme de savoir qu'est-ce que les gens au fond ils pensent de moi, et ils vont parler de moi, ils vont être tellement contents de moi. Pourquoi? Parce que la personne elle s'aime. Maintenant quand la personne elle s'aime, il faut qu'elle décide, est-ce qu'elle aime ce qu'elle est vraiment, ou est-ce qu'elle aime ce que les gens croient qu'elle est? Après, qu'est-ce que tu défends? Tu défends ce que tu es vraiment, ou est-ce que tu défends l'image que tu as créée chez les gens? C'est ça la différence entre l'amour propre et l'amour réel. Le respect de soi et le respect de son image. Qu'est-ce que tu respectes? Qu'est-ce que tu préserves? Qu'est-ce que tu maintiens? Qu'est-ce que tu développes? Et des fois, ça fait exactement l'effet inverse. Tu crois que tu te préserves, en vérité, tu te détruis. Ouais. Tu crois que tu donnes une bonne image, en vérité, tu donnes une mauvaise image. Pourquoi? Parce que des fois, malheureusement, c'est ça un peu la difficulté de la vie. C'est est-ce que toi tu es dans ta réalité au moment où tu vis ta réalité? Tu sais, c'est quoi le stress? Le stress, c'est la sensation que me procure l'effort que je fais pour rattraper la distance qui est entre moi et ma réalité. Ça va être dur, même moi je sais pas. Bon. Le stress, c'est quoi? C'est la sensation que je ressens quand je fais un effort pour raccourcir la distance qui existe entre moi et la réalité. Par exemple, j'ai pas une réalité de patron et je me prends pour un patron, donc je vais stresser. J'ai pas une réalité de père et je me prends pour un père, donc je vais stresser. Je me prends pour un type sérieux, mais je suis pas sérieux. Je me prends pour quelqu'un de compétent, je suis pas compétent. À chaque fois qu'il y a une distance entre ce que je crois et ce que je suis, ça crée du stress. Si tu es à la hauteur de ce que tu es, il n'y a pas de stress. Est-ce qu'un lion il stresse? Non, parce que c'est un lion. Il ne dit pas « je suis un rhinocéros » parce que si le lion il se prend pour un rhinocéros, plus il se rend compte qu'il n'est pas rhinocéros, plus il va stresser. Toute la vie c'est comme ça. Ouais. Tu es un bon vendeur, tu veux devenir patron. Ouais, pourquoi le patron il prend 100 000 euros et moi je prends 20 000 euros? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te mets patron. Mais patron, bah, y a le stress, il y a la décision, il y a les investissements, il y a la gestion des stocks, tu ne sais pas faire ça toi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas stresser. La distance entre eux. Ça toujours je vous explique, quand tu prends une valise, tu la portes comme ça. Ben, tu la sens pas, mais quand tu la portes comme ça, tu la sens. C'est ça le stress. C'est la distance que tu as créée entre toi et tes obligations, entre toi et ce que tu dois être. Et bien cette distance-là, oui, elle s'appelle la colère.
Elle s'appelle
la colère. C'est ça la colère. C'est le premier symptôme de la colère, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple, la Gemara dit que celui qui est coléreux, qui est ilou bana bama, c'est comme s'il a construit un hôtel. Un hôtel de quoi? D'idolâtrie. Tu dis, mais qui est l'idolâtrie? Il n'y a pas d'idolâtrie. Le type, il est là, tout de suite, il s'énerve dans sa salle à manger. Il s'énerve. Où est l'idolâtrie? Alors le Rav Volbeu, il dit, il explique, parce que c'est marqué Kol, c'est la Gemara dans Shabbat, elle dit Ameshaber Kelav Behamato, Yeh Be'enecha Keoved Avodazara. Celui qui va déchirer ses vêtements ou qui va détruire des ustensiles dans sa colère, il doit être à tes yeux comme quelqu'un qui fait Avodazara, qui fait idolâtrie. Mais c'est quoi l'idolâtrie? Regardez, réfléchissez. Il y a un bout de bois, d'accord, je le prends. Je le taille, je lui donne une forme de statue. Et je lui dis, tu es mon Dieu, ô éternel. Mais il y a une demi-heure, c'était un bout de bois. Maintenant, tu ne l'as pas taillé, tu l'as acheté chez un marchand. Tu l'as chez le marchand, c'est marqué en dessous, Madin China. Tu dis, tu es mon Dieu. Quel mon Dieu, de d'où? Donc en vérité, c'est quoi l'idolâtrie? C'est pas de croire dans un Dieu. L'idolâtrie, c'est le pouvoir de décider qui est Dieu.
Ouais.
D'accord? Maintenant, celui qui a décidé qui est Dieu, c'est qui? C'est toi. Donc c'est qui toi? C'est toi. C'est qui Dieu? C'est toi. Donc en vérité, c'est quoi l'idolâtrie? C'est une manière de diviniser sa propre personne. Maintenant, la Gemara, elle dit, la colère, c'est comme de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le droit de crier, toi, tu as le droit de te taire. Moi, j'ai le droit d'imposer, toi, tu as le droit de souffrir. Toi, c'est normal que tu crèves, et moi, c'est normal que je kiffe. C'est ça l'idolâtrie. J'ai divinisé ma propre volonté. Si je l'ai dit, si je l'ai pensé, si je l'ai voulu, c'est que c'est d'ordre divin. C'est un héritage que j'ai de pouvoir affirmer, que j'ai pouvoir le faire. Parce que c'est pas possible. Mais les gens, ils sont même pas logiques. Eh ben oui, c'est comme ça. T'es pas content, c'est comme ça. Je suis comme ça. Il faut me prendre comme je suis. Le pire, c'est que c'est même pas la personne elle-même. Encore une fois, mais on a un problème. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle s'est identifiée en elle-même à quelqu'un qui n'est pas elle-même. Et c'est ça qui crée la souffrance. Parce que d'un côté, la personne, elle se bat pour affirmer son amour propre, ouais, mais dès qu'elle retrouve ses esprits, elle est quelqu'un d'autre. Ah, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été trop loin, je regrette les mots que j'ai dit, je ne les pensais pas, je regrette les gestes que j'ai faits, je ne voulais pas les faire. Je dis alors, je parle à qui, moi? Je parle à qui? Je parle à l'ours, là, ou je parle au nounours? À qui je parle? Avec qui je fonctionne? Avec qui je vis? Oui, cette logique-là, on ne va pas s'en servir pour faire le procès de la personne elle-même, mais que la personne elle-même, elle fasse par rapport à elle-même. Je vous ai expliqué déjà une centaine de fois qu'à chaque fois que je vous donne des exemples des autres personnes, c'est pour réfléchir comment la personne elle-même, elle peut se regarder comme quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez de ça ou non? C'est-à-dire que quand je regarde comment ma femme me regarde, quand je regarde comment mon mari me regarde, quand je regarde comment mes enfants me regardent, comment mes amis me regardent, ça veut dire que moi, je pourrais me dire, eh ben moi, je vais me mettre dans leurs yeux et je vais essayer de me comprendre. Parce que le vrai problème, et c'est ça le moussard, c'est quoi le moussard? C'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est la projection que j'ai sur moi-même. Je mets une caméra et je me regarde. Maintenant, quand la caméra, c'est l'autre, alors je le prends mal, parce que j'ai dit, j'ai honte. Alors, t'as qu'à jouer toi la caméra? Tu dis, mais je peux pas être moi et la caméra. Ben si, puisque déjà toi-même, tu es deux. Tu es le type qui se met en colère et le type qui regrette. Oui? Tu es celui qui fait du mal et qui dit, c'était plus fort que moi. Tu es les deux. Alors, t'as qu'à couper. Fais un découpage. Oui? Celui qui regrette, il va regarder celui qui se la joue. Celui qui se calme, il va regarder celui qui s'est énervé. De faire cette dualité. Et ça s'appelle la projection, ça s'appelle l'introspection, ça s'appelle le pouvoir de remise en cause. Et c'est ça qui amène à la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que deuxième critère de la colère, c'est la perte de maîtrise. La perte de maîtrise. Je ne maîtrise plus. Ouais. C'est comme si quelqu'un y tombe dans un ravin. Ben le premier geste, il a maîtrisé, mais après le deuxième, il tourne, le troisième, il prend un coup par là, il prend un coup par là, il prend une branche par là, il prend une pierre par là, mais c'est fini, ça ne lui appartient plus. Et c'est ça la logique. C'est pour ça qu'on voit que de la même manière, qu'est-ce qu'on va reprocher à quelqu'un? On ne va pas lui reprocher d'être arrivé en bas du trou après 50 000 tours. On va lui reprocher comment ça se fait que tu t'es mis à côté du trou. Pourquoi tu t'es mis à côté du ravin? Tu t'es mis à côté du ravin, tu es tombé. Quand tu es tombé, c'est plus toi. C'est pour ça qu'en français, on dit pas je colère. On dit je me suis mis en colère. Tu m'as mis en colère. Comme si, genre, tu m'as pris moi, tu m'as mis dans une situation où je n'étais pas moi. Alors vous savez qu'il y a une halakha. Si moi, j'ai quelqu'un en face de moi, je cours, je lui mets un coup avec ma tête et je le tue. je suis coupable de meurtre. Maintenant, si moi, on m'attache avec des cordes et je ne peux plus bouger, et on me prend mon corps et on le jette sur quelqu'un et la personne, elle meurt, moi, je n'ai pas fait de meurtre. Ça va? Pourquoi? Ma volonté n'a pas intervenu. Alors, quand je dis à quelqu'un, tu me mets en colère, ça veut dire que je dis, tu m'as utilisé pour faire du mal. Mais moi, je suis innocent. C'est toi qui m'as mis en colère. C'est fort. Je ne suis pas tout, moi. Moi, je suis une victime. C'est vrai que j'ai tout cassé, mais c'est toi le bourreau. C'est fort. Comment cette logique, là? Parce que j'ai dit, tu m'as mis en colère. Comme si la colère, c'est une situation où la personne, elle est passive, et elle ne fait que subir la situation dans laquelle on l'a mis. Mais elle n'a rien fait. C'est fort. C'est quoi, tu m'as mis en colère? Oui, tu m'as mis en colère. Moi, tu m'as mis en colère. Alors, Rabotaï, la première halakha qu'il faut avoir en tête, au niveau de la colère, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de penser que j'ai le droit de m'énerver parce que quelqu'un m'énerve. D'où ça vient cette halakha? Les gens, ils viennent, ils disent, bon, c'est vrai, je me suis énervé, mais elle m'a énervé. C'est vrai, je me suis énervé, mais il m'a énervé. Il m'a poussé au bout. Mais qui a dit ça? Où c'est marqué ça? Où c'est marqué que j'ai le droit de m'énerver parce qu'on m'énerve? Tu dis, mais enfin, c'est une réaction naturelle. Mais nous ne sommes pas des plantes vertes. Nous ne sommes pas des animaux pour réagir de manière naturelle. La nature, c'est pour les animaux. C'est la différence entre un homme et un animal. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? C'est qu'un homme agit et un animal réagit. Non, mais je sais ce que vous allez dire. Oui, mais vous ne la connaissez pas. Il est spécial. C'est un psychopathe. Il est malade. Moi je sais pas, moi je pense, bon peut-être que je suis un fou, moi je pense que quelqu'un qui s'aime vraiment, pas qui s'aime, S'AIME, il doit se préserver, même des fous qu'il rencontre. Attendez deux minutes, ouais. Je ne peux pas arriver à la conclusion avant le début. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est d'arriver à comprendre que déjà moi-même, comment est-ce que moi je rentre dans ce trip-là? Parce que encore une fois, j'ai déjà un axiome qui est acquis. J'ai le droit de m'énerver. C'est légal, c'est justifié, c'est normal. C'est ça ton problème déjà? Mais qu'est-ce que tu rentres dans toi? Comprenez ou non? Ça veut dire que là, tu as crié parce que l'autre est énervé. Donc si tu as poussé, tu lui mets un coup de poing. Donc s'il lève la main, tu prends une hache, tu lui plantes dans la tête. Puisque tu te sens en danger de mort. Tout est possible. Tout est possible, comprenez ou non? Mais où tu as vu ça? Où tu as vu cette logique-là? Je dis, si tu t'aimes vraiment, ouais, comment ça se fait que tu te mets dans un état pareil? Vous savez qu'une colère, au niveau neurologique, elle coûte des millions et des millions de neurones. Quelqu'un qui se met en colère, il détruit des neurones. Énorme. Ouais. C'est énorme. Tout ce qui est vécu avec force, ouais, ça détruit des neurones, en accélération. Donc ça veut dire que quelqu'un qui s'aime, il se dit, mais je ne vais pas mourir plus tôt parce que l'autre, il m'a énervé. Alors il a marre, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas de mourir, un peu. Levez-vous. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de mourir un peu si je sais que l'autre, il peut mourir. C'est grave. Je ne sais pas si vous me suivez, oui. Alors ça, c'est un langage. Dans le Navi, il s'appelle « Tamut Nafshim Pelishtim ». Si l'autre, il meurt, je suis prêt à mourir. Mais rien qui meurt. Mais comment t'es arrivé à un tel niveau de haine, un tel niveau de destruction, que tu peux tout casser? Pourquoi? Tu ne veux plus contrôler. Tu ne veux plus rentrer dans la maîtrise. Tu ne veux plus assurer. Tu ne veux plus assumer. Alors tu lâches les rênes. Tu lâches. D'où ça vient ça? Alors, on l'avait expliqué déjà plusieurs fois que le mot roi en hébreu, il veut dire l'esprit. Mais le roi en hébreu, il veut dire aussi l'air. Ouais. Alors toujours, je donne cet exemple de l'air comprimé. Vous prenez un système d'air comprimé. Donc il y a un compresseur. Le compresseur, il produit de l'air comprimé. L'air comprimé, il passe par un système et au bout, il est récupéré. Alors, vous savez, avec de l'air comprimé, on fait marcher un marteau-piqueur, c'est de l'air comprimé. On peut faire marcher des grues aussi, c'est de l'air comprimé. Il y a certains ascenseurs qui fonctionnent avec de l'air comprimé. Une locomotive, elle marche avec de l'air comprimé. C'est-à-dire, c'est très puissant l'air comprimé. Et pourtant, c'est rien, c'est de l'air comprimé. Si vous réfléchissez, c'est rien. Si je mets un million de camions qui tirent une fusée ou un immeuble, je peux dire c'est normal, c'est la force des camions. Si je mets un million d'hommes qui tirent des pierres, je peux dire c'est la force des hommes. Mais quand c'est de l'air, c'est bizarre que l'air, il peut tirer des choses. Encore une fois, oubliez que ça marche comme ça, ouais. Mais une locomotive, on décompte une locomotive à vapeur de l'époque, une puissante, jusqu'en 1950, il y avait encore des trucs. Tu mets un kilomètre de wagon, elle tire. Mais avec quoi? Avec de l'air. On pousse de l'air, elle pousse le piston, et hop, ça avance. On n'a rien fait, on a juste compressé de l'air. L'avion, c'est pareil. Comment il vole un avion en réaction? C'est comment il fait? Vous êtes au courant? Parce que, en vérité, la puissance des réacteurs, elle tasse l'air qui est en dessous de l'avion, qui est en dessous des ailes. Donc, en fait, l'avion, il s'appuie sur l'air. Et c'est comme ça qu'il monte. C'est pas comme les avions à hélice qui tirent l'air. Ouais. C'est comme si tu avances dans quelque chose. Quand tu nages dans l'eau, comment tu avances? Bah parce que l'eau qui est devant, tu la mets en arrière. Donc, comme tu mets l'eau en arrière, ça te projette en avant. C'est une réaction physique. Mais dans l'eau, tu peux comprendre. L'eau, c'est solide, un petit peu solide. Mais l'air, c'est rien du tout. Alors, exactement le même principe. L'air, c'est quoi? C'est l'esprit. Maintenant, l'air, quand quelqu'un il gère l'air qui est à l'intérieur de lui et qui le compresse, on appelle ça la maîtrise de soi, on appelle ça la détermination, on appelle les choix, c'est la force. Quand quelqu'un il maîtrise pas cet air-là, vous voyez, on appelle ça comment? La frustration. Tu prends de l'air, tu le mets dans un projet, le projet devient vivant. Comme si tu mets l'air comprimé à l'intérieur du marteau-piqueur, le marteau-piqueur, il devient vivant. Mais si cet air-là, au lieu de l'exprimer, tu le gardes à l'intérieur, il fait exactement la même puissance, mais au lieu d'exploser à l'extérieur, il implose à l'intérieur. Ça veut dire que la colère, c'est une dérive d'air comprimé qui n'arrive pas au bon endroit et au bon moment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'air comprimé, c'est-à-dire, on a besoin de la volonté, on a besoin de la puissance, on a besoin de la force de la vie, mais il faut bien l'orienter. Si elle est mal orientée, elle devient destructrice. La même, parce que la même énergie, on a dit, qui fait la motivation, c'est la même qui fait la frustration. Mais la même qui fait l'amour, c'est la même qui fait la haine. Maintenant, quelle différence entre l'amour et la haine?
Diversion.
Eh bien, la déception. Quand je suis content de toi, ça s'appelle de l'amour, et quand je suis déçu, ça s'appelle de la haine. Alors, on vous a expliqué un million de fois que à Ava, rappelez ou non, c'est valeur numérique 13, c'est la même que Echad, qui veut dire 1. Et Sin'a, la haine, c'est la même consonance phonétique que Shnaim. Shnaim, c'est 2. Donc, aimer, c'est faire 1, haïr, c'est faire 2. À chaque fois qu'on fait 2, ça produit de la haine, à chaque fois qu'on fait 1, ça produit de l'amour. Maintenant, dans la rue, on dit que parce qu'on s'aime, on fait un. Nous, on dit le contraire, nous. Nous, on dit parce qu'on fait un, on s'aime. Parce qu'on produit l'unité, parce qu'on produit le rapprochement, parce qu'on met des choses en commun, parce qu'on s'investit, parce qu'on fusionne, alors on s'aime. Les gens disent non. Il n'y a rien du tout entre toi et moi. Et d'un seul coup, il y a un truc magique qui apparaît de nulle part, qui s'appelle l'amour, et ça qui nous incite à faire un. Tu crois, toi? Tu crois aux effets spéciaux, toi? Mais ça, c'est un truc rigolo que j'ai dit souvent, en rigolant, mais je rigole pas. J'ai remarqué les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Ils croient au miracle. C'est comme ça. Ouais. Moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Nous, par exemple, on dit, il faut que tu te bats pendant 10 ans avec ton couple pour construire l'amour. L'autre, il dit, mais non. Tu regardes un DVD et c'est tout, on s'adore. Mais le DVD, c'est un halom. Oui, c'est un halom si moi je rêve et toi tu crèves. Mais si on le regarde les deux, on est bien. On doit s'aimer puisqu'on est en train les deux de regarder un film d'amour. Tu dis, mais allez vous soigner les deux. C'est que les gens, ils ne peuvent pas se voir, ils ne se parlent jamais, mais ils ont vécu une belle histoire d'amour ensemble. Sauf qu'elle est dans le film. Mais ils n'ont rien vu. Et ils vont dormir le soir. Et même quand ils dorment, hein, un il pense à l'autre et l'autre il pense à l'autre. Un, il pense à l'actrice et elle pense à l'acteur. Et les deux, ils dorment ensemble. Et mais ils sont malades, ces gens. Après, tu dis, ouais, les religieux, ils exagèrent. Ah bon? Alors les autres, ils doivent se faire soigner. Ah bah oui, bah oui. C'est quoi l'idée? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que il y a une réalité en face de toi, elle t'en renvoie quelque chose. Maintenant, toi, tu arrives en face de sa réalité, il faut que tu fasses la connexion entre toi et la réalité. Si tu connectes, c'est très bien, mais si tu n'arrives pas à connecter, qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette énergie qui est sortie de ta neshama comme de l'air compressé, d'accord? Qui traverse ton psychi comme de l'air compressé, qui traverse ton corps comme de l'air compressé et qui doit rentrer dans la réalité. Si tu n'arrives pas à bien connecter, ça s'appelle le tuyau d'air comprimé. Il faut bien le connecter, parce que si tu ne le connectes pas, il va casser tout. Hein. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est que l'ouverture par où tu dois connecter, aujourd'hui, c'est ta femme. Là, c'est ton employé. Là, c'est ce que tu attends de tes enfants. S'il est mal connecté, il y a un peu de retard. Envoyer l'air trop tôt. On a envoyé l'air trop tard. Ça va exploser. Donc, c'est quoi la colère? C'est une explosion de volonté qui est mal gérée. C'est pour ça que c'est très, très important de maîtriser. Vous savez, quand ils vous montrent la jonction entre la navette spatiale américaine et la navette spatiale russe. Ouais, alors ils ont fait déjà 44 millions de kilomètres. Ouais. Après, ils se rapprochent. C'est calculé par ordinateur. Ils vous montrent le truc. Tu dis quoi? Ils sont en train de travailler 500 mecs en Russie, 500 mecs en Amérique pour mettre un tuyau un dans l'autre. Toi, tu viens d'une famille. Tu as un passé, tu as un vécu, tu as une personnalité, tu as des souffrances, tu as des malaises, tu as des peurs. Elle vient d'autre part. Elle vient d'une autre famille. Elle n'est pas le même caractère. Elle n'a pas la même approche. Elle n'a pas la même sensibilité. Tu crois que ça va connecter du premier coup? Et les gens, ils s'énervent. Je suis très déçu. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que je voulais. Mais tu rigoles. Je te dis la NASA. NASA, ça vient de naze. Ouais. Ils se mettent à 500 pour connecter un tuyau. Toi, tu crois que tu vas t'arranger comme ça du premier coup? Donc le fait même déjà que tu acceptes pas l'idée que c'est pas simple, c'est que tu as un problème. C'est que tu crois que le monde entier, il est fait pour toi. La preuve, c'est que tu es déçu. Par exemple, vous mettez une jupe, elle vous va pas du premier coup. Enfin, faut vraiment que vous soyez pile dans la coupe. Ouais, c'est rare. Un pantalon, il ne va pas du premier coup, on va faire des retouches. S'il est sur mesure, hop, il te va bien. Hop, oh là, il tombe comme un gant, c'est du sur-mesure. Mais dans la vie, rabotaille, c'est pas du sur-mesure. Hein. Il faut travailler. C'est toi qui le rends sur mesure. Ton mari, tu vas le rendre sur mesure. Ta femme, tu vas la rendre sur mesure. Il faut beaucoup d'amour. Beaucoup. Même ta boîte à toi, elle est adaptée à toi. Maintenant, ils te connaissent. Ça fait 10 ans que tu es avec cette secrétaire, 5 ans avec le comptable, 6 ans avec le contremaître. Il sait comment tu fonctionnes, il sait comment tu marches. Il clique, tu fais comme ça, il te dit ça forcément. Il anticipe. Et ça a pris du temps. C'est pas le premier jour. Il dit, je comprends pas ce qu'il veut. Ben, comment il veut? Alors tu t'énerves sur qui? Mais alors, c'est quoi notre erreur? C'est de croire que les gens que nous aimons ou qui nous aiment, ils doivent réagir exactement comme nous au moment où nous on le veut. Et non, c'est le contraire. Il faut avoir plus de patience avec les gens proches qu'avec les gens loin. Alors que nous, avec les gens loin, on est très patient, mais avec les gens proches, on n'est pas patient. Comme si c'était évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un élément dont il faut tenir compte. Toujours les gens, ils m'expliquent, oui, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, que je leur dis, Nia, moi, en tant que rabbin, je leur dis, Nia, je leur dis, excusez-moi, bon, j'ai compris votre raisonnement, quelle est la part du Yetzirah? Je sais pas. Elle dit, bon, j'ai tel projet. Combien vous avez tenu compte du Yetzirah? Ah, j'ai pas tenu compte. Dans cette vision des choses, c'est quoi le Yetzirah? Chez votre femme, c'est quoi le Yetzirah? Chez vous, c'est quoi le Yetzirah? Chez votre enfant, c'est quoi le Yetzirah? Ah, mais j'ai pas pensé, j'ai pas imaginé. Comment vous avez pas? Il faut tenir compte. Ça s'appelle le taux de déformation. Oui, donc il faut tenir compte de l'amour propre, il faut tenir compte du malaise, il faut tenir compte de l'incompréhension, il faut tenir compte du fait que l'autre il va être gêné, il faut tenir compte des nerfs, il faut tenir compte de tellement d'éléments. De l'autre il est fatigué, ça tient compte. Toi tu dis mais je comprends pas, puisque moi je suis pas fatigué, comment ça se fait que l'autre il est fatigué? Mais je te parle de connecter moi. Donc toi tu viens d'un côté, lui il vient de l'autre. Donc toi tu envoies une certaine énergie, maintenant tu veux que l'autre il soit la suite de ton projet. Parce que toi, tu as pensé que c'était le bon moment, que c'était le bon jour. Mais l'autre, peut-être que l'autre aussi a sa vie pendant ce temps-là. Ah, tu t'es déçu, tu t'énerves. Ouais. Alors je te dis pourquoi, t'es pas adapté. Tu n'es pas adapté. Tu n'es pas adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base, déjà, de la lutte contre la colère, c'est un effort perpétuel d'adaptation. Je m'adapte. Maintenant, à quoi il faut s'adapter? À la différence de l'autre. De tous les niveaux. Maintenant, nous, malheureusement, la personne qu'on aime le plus au monde, c'est nous. Le nom qu'on adore le plus, c'est le nôtre. La vie qu'on respecte le plus, c'est le nôtre. Le temps le plus important, c'est le nôtre. Alors, le malheur, c'est que l'autre, il a le même problème que nous. Je ne sais pas si vous sentez ça. Donc, il va y avoir une espèce de concurrence. Comment on va faire? Alors, à l'époque, je vous disais, moi, j'ai besoin d'exister, toi, tu as besoin d'exister. Alors, la question, elle est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Maintenant, si moi, dans mon malaise existentiel, je suis convaincu que l'autre en existant, il m'empêche d'exister, je suis capable de l'empêcher d'exister pour qu'il m'enlève la peur que j'ai de croire qu'en existant, il m'empêche d'exister. C'est trop? En italien? Moi, je veux exister, d'accord? Toi, tu veux exister. Maintenant, moi, je m'invente un rêve comme ça. Ouais, je m'invente une peur. C'est comme par exemple, vous avez une heure d'avance à l'aéroport. Et d'un seul coup, vous prenez une panique, vous dites, je vais rater l'avion, vous mettez à courir. Où tu cours? Ouais. Tu as 1 000 000 d'euros dans le compte. Mais ta femme, elle a dépensé 500 euros. Tu dis, ah, pas possible, mais t'es folle, puis c'est pas que tu as 1 000 000 d'euros. Arrête de me saouler avec tes 500 euros. Si t'as 3 euros, je comprends. Mais t'as 1 000 000 d'euros. Ah, mais on avait fixé pour ce mois-ci. Tu prends une panique. C'est un sentiment espagnol. Parce que l'espagnol est hispanique par définition. D'accord? Si une panique, ouais. Ta fille, elle t'a dit, elle rentre à 5h, il est 5h30, tu commences à. Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle est? Avec qui elle dort? Oh, wow, 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 elle a raté l'autobus. Tu te détends. Mais c'est des peurs comme ça qui montent. Ouais. Et bien, il y a une peur qui s'appelle que quoi? Que l'autre en existant, il m'empêche d'exister. Ouais. Avec sa personnalité, avec sa place, alors moi j'existe plus, moi je suis plus rien, oui, l'autre il est là, tout le monde le regarde, tout le monde la regarde, elle est belle, elle est intelligente, et moi je suis une kharwa, je suis une pafla. Non, toi tu es toi-même, lui il est lui-même, elle est elle-même, personne ne te prend ta place. Mais on peut rentrer dans une panique comme ça, ça s'appelle le complexe, ça s'appelle la névrose, oui. Je suis sûr que la collègue de travail, elle est mieux vue par le patron. Alors je vais faire un petit lâchonnard de temps en temps. Tous les matins je dis... Tiens, elle est encore en retard. Comme ça, je vais la pourrir. Après, le patron, il va dire, c'est vrai, elle arrive tout le temps en retard. Alors moi, je dis, bah oui, mais moi, j'arrive toujours à l'heure. Oui. Tu... Pourquoi? Parce que toi, tu te sens agressé par l'existence de l'autre. C'est une des bases du Lashon Hara. Pourquoi on parle sur les autres? Pourquoi tu parles? Parce que tu dis, je vais éliminer la concurrence. L'autre il est tordu, l'autre il est débile, l'autre il est méchant, l'autre il est brel, l'autre il n'est pas intelligent, l'autre il n'est pas assez religieux, l'autre il est trop religieux. Tu as un avis sur tout le monde. Comme ça tu dis, je suis le donneur d'étiquettes, donc moi je dois être magnifique. Mais nous on dit le contraire. Nous on dit, si toi tu es entouré d'imbéciles et que tu en es le roi, tu es le roi des imbéciles. Tu passes ta vie à définir les gens. Mais en général, celui qui s'est défini lui-même, il n'a plus besoin de définir les autres. S'appelle Amegadel et Atzmo al Kalun Chavero. Celui qui se grandit lui-même sur la honte de l'autre. Qui se grandit lui-même sur la honte de l'autre. Toi, tu crois que quand tu casses l'autre, tu grandis toi. Non, non. Peut-être que l'autre, il est nul, puisque tu le dis. Mais toi, c'est sûr que tu es nul, puisque tu penses que l'autre est nul. Parce que si tu te sens toujours obligé de te défendre, de se situer par rapport à l'autre, c'est qu'il n'existe pas, tu n'es que son reflet.
Tu es plus nul que lui.
Exactement. Donc si c'est ça, on a dit c'est quoi? Ça s'appelle encore une fois un problème d'inadaptation par rapport à la différence de l'autre. C'est aussi une inadaptation à la situation. Voilà. Des fois, tu as tout préparé, c'est pas comme tu voulais. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves. Ouais. Tu dis, ah, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est fait pour ça. Les nerfs, c'est fait pour ça. Le calme, c'est fait pour ça. Le calme de route, c'est fait pour ça. C'est parce que ça ne va pas exactement se passer comme tu attends. Donc pourquoi tu t'énerves? Parce que toi, tu crois que le plan, il est comme tu as posé toi. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas. Au contraire, il faut travailler l'élasticité. Parce qu'il y a des déceptions. Un enfant, tu crois qu'il va être comme ça, il est comme ça. Ton couple, tu crois qu'il allait faire comme ça? Tu crois que la femme, tu la poses là, tu reviens, elle est là? Mais des fois, elle bouge, elle est vivante, c'est une matière vivante. C'est pareil, le mari, un jour, il a des idées. Tu lui mets comment? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais qu'est-ce qu'il lui arrive? Je crois que c'était une machine à sous. Eh bien, là, c'est un produit évolutif. Il faut s'adapter. Un jour, il a quelque chose à dire. Un jour, il a besoin de proximité. Un jour, il a besoin de tendresse. Et tu lui dis, mais pas faire ton travail et arrête les états d'âme. Est-ce qu'un distributeur de billets, il a des états d'âme? Tu vas chez ton psychiatre, tu rencontres un distributeur de billets. D'où il vient celui-là? Eh bien, il est en thérapie. Mais non. Donc, si tu penses que ton mari, c'est un distributeur de billets, fais attention, parce que peut-être qu'il va aller raconter ses états d'âme à quelqu'un d'autre qui l'écoute. Et qui ne pense pas que c'est un distributeur de billets. Ouais, allez, hein. Oui. Donc, c'est logique. C'est quoi la logique? C'est que je dois m'adapter. Maintenant, le problème, c'est que le système, il change tout le temps. Vous savez, un des défauts majeurs des enfants, je l'ai dit un million de fois, c'est qu'ils grandissent. Nous, on aime bien les bébés. Un biberon, un biberon, un caca, un dodo, un biberon, un dodo, un caca. C'est facile. À 16 ans, c'est pas facile. C'est compliqué. À 18 ans, c'est pas facile. À 30 ans, c'est pas facile. Et ouais, c'est jamais facile. Moi, je dis entre guillemets, hein, parce que vous en faites pas, j'ai les mêmes problèmes que vous. Hein. On est censé être adapté. Vu que ça fait 20 ans qu'on est en face de nous, donc ça fait 20 ans qu'on travaille le sujet. Vu que ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'on travaille le sujet. Alors comment ça se fait qu'on se sent perdu? Parce qu'on n'accepte pas qu'après l'étape numéro 1, il y a l'étape numéro 2. Et après l'étape numéro 21, il y a l'étape numéro 22. Nous, on veut que ça s'arrête, que ça se calme, que c'est posé, c'est comme là, c'est comme tu poses ton chéquier, là, tu le retrouves. Pourquoi tu t'énerves? Quand tu as mis le marteau, tu reviens. Mais où vous avez mis les outils? Il y en a marre! Ben, les enfants, ils prennent les outils, ils ne les rangent pas, c'est ça, tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu dis, mais j'ai garé la voiture ici. Oui, mais étant donné qu'il y en a d'autres qui s'en servent, donc c'est possible qu'elle soit ailleurs maintenant. Donc avant de sortir, tu demandes où est la voiture. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans la rue à t'énerver. Où elle est? Mais Anna, quelle bande d'ormas? Mais c'est quoi cette famille d'Aubrel? Mais... Tu n'as toujours pas intégré que vous êtes plusieurs à l'utiliser. Donc tu t'énerves avec le vent, avec l'air, avec la rue. Alors que c'est qu'une question d'adaptation. C'est comme les chaussures, il faut mettre les deux. Alors tous les matins, tu dis quoi? Tous les matins de ma vie, je vais mettre deux chaussures. On peut te couper un pied. Comme ça, tu mettras une. Tu dis, mais après, il va falloir... Alors, tu vas mettre deux chaussures et tu vas faire une mitzvah facile pour tout le monde. Tu vas te la fermer. Eh bien, une femme, c'est comme une deuxième paire de chaussures. Des enfants, c'est comme 18 paires de chaussures. C'est comme ça. Ça fait partie des obligations. Maintenant, les obligations, normalement, ça ne doit pas te peser. Encore une fois, pourquoi? Parce que tu es adapté. Donc, quand tu les refuses, elles vont créer chez toi un stress qu'on appelle la colère. Vous me suivez ou non? L'enfant est né, tu travailles. Il grandit, tu travailles. Ton entreprise, elle grossit, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu grossis, tu t'adaptes, tu grossis, tu t'adaptes. Si tu restes encore avec ta petite concavité d'épicerie, après tu dis, oui, je suis stressé. Il faut que j'assiste, j'ai rendez-vous avec une banque, comment je vais faire? Oh ben c'est fini, tu n'es plus au marché noir comme ça, à Beyrouth, dans la rue, en train de vendre des frites, tu les veux, tu prends les tiens, vas-y, vite, c'est fini, maintenant on est à une autre échelle. Donc c'est une autre approche, donc c'est un autre format mental. Mais si tu es resté avec ta mentalité de l'époque, tu vas devenir fou. Mais toute la vie c'est ça. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, quand toi tu es obligé... Parce que tu n'as pas su amener cette énergie avec sérénité pour qu'elle s'inscrive doucement, tu cales, tu bloques et tu envoies l'air comprimé. Oui? Réflexion, décision, action. Donc il n'y a pas de problème. Mais toi, au moment de l'action, il n'y a pas eu la réflexion. Il n'y a pas eu la décision. Tu as été pris de court. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu envoies tout balader. Tu dis, ah, c'est comme ça. Eh ben j'en ai rien là. Où tu vas là? Hier soir, j'ai fait une conférence. Il y a un monsieur, une madame très gentille, dentiste. Et il me dit, j'ai des problèmes avec le grand et tout ça. Voilà, il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Je dis, mais vous lui parlez? Non, mais il m'énerve en ce moment, je suis très déçu. Je lui explique. Vous rentrez tard le soir? Il me dit, oui, quelle heure? 10h du soir. Vous n'avez pas le temps de parler avec lui? Non. Donc quand vous parlez, c'est juste pour gueuler. Il me dit, oui. Donc vous êtes déçu parce que vous voyez que des choses négatives. Ouais, alors vous n'avez plus envie de lui parler, c'est bien. Après, si vous faites maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comprenez ou non? L'autre il fait des nœuds, il fait des nœuds, il fait des nœuds, il fait des nœuds, il fait des nœuds. Après il dit, comment je vais faire pour utiliser la corde? Mais ne fais pas des nœuds. Comprenez ou non? Je ne rentre pas. Je ne lui parle pas, je ne le comprends pas, il ne m'intéresse pas, il me prend la tête, il me saoule, il fait les devoirs tout seul, il se débrouille avec ses trucs, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je ne sais pas ce qu'il fait, je sais pas, j'aime pas son genre, j'aime pas son style. Voilà, un sac de nœuds. Il est venu chez moi. Il m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai un problème, pourquoi? J'ai dit, mon fils, il a 19 ans. Je lui ai dit bonjour, on se parle. Il m'a dit, qui êtes-vous? J'ai dit, pardon? Il m'a dit, qui êtes-vous? Il m'a vouvoyé, il m'a dit, qui êtes-vous? J'ai pas l'honneur de vous connaître. J'ai dit, mais ton fils, il a parlé déjà? C'est la première fois, le petit m'a dit qu'il fallait que je lui parle, donc je... T'es pas adapté. Comme t'es pas adapté, ça t'énerve, comme si t'énerves, tu te mets en colère. Et dans toute la vie, c'est pareil. Oui. Je te dis, tu prends ta voiture, peut-être tu vas trouver une place, peut-être tu ne trouves pas de place. Si tu ne trouves pas de place, ne t'énerve pas, puisqu'il y avait une chance sur deux. Le deal, oui, il va marcher, il ne va pas marcher. L'autre, il a refusé ton prix. Tu cries. Tu dis, mais je suis en train de perdre la marge. C'est toi qui as mal calculé à l'achat. Tu as perdu à l'achat. Tu veux gagner à la vente. Mais tu es deux fois le prix du marché. Enfin, réfléchir avant. Alors tu cries, tu t'énerves, tu cherches un bouc émissaire, tu insultes ta femme, tu insultes les employés. Mais vraiment, mais c'est toi le patron, on regarde les marges. Si tu ne sais pas calculer la marge, deviens employé de la poste. Il ne faut pas faire du commerce. C'est connu que dans le commerce, on gagne plus à l'achat qu'à la vente. Donc il faut un peu racham. Ah non, je pars. Ah ben j'ai. Alors qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te remettre en cause, tu commences à t'énerver contre tout le monde. Mais ça ne changera rien. Mais non, en plus, les clients, ils ne veulent plus te prendre au téléphone parce qu'on sait que tu cries. Donc, c'est quoi l'idée? C'est une question d'adaptation. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que l'adaptation, elle est toujours anticipée. Elle vient doucement se mettre en place. Parce qu'on a anticipé, on a déjà fait le calcul avant. Mais si moi, mes repères sont faux parce que je ne suis plus dans la réalité, ou parce que je la refuse, ou parce que je ne la comprends pas, ou parce que je l'interprète mal, comme mes repères sont faux, mes réactions vont être faussées. Pourquoi? Parce que quand moi je me sens agressé, qu'est-ce que je fais? J'augmente les effets. Alors on dit en français, il ne faut pas utiliser un missile pour tuer un moustique. Imagine, tu es dimanche après-midi en train de te reposer dans la chambre. Et tu entends. Et tu vois le moustique qui s'est posé sur le mur de la chambre. Tu le vois. Tu sors ton missile. Sol, 18 mégatonnes d'impact, tu vises bien et tu tires. Tu as eu le moustique. Il n'y a plus le mur, il n'y a plus le quartier, mais il n'y a plus le moustique. Quelle tranquillité! Mais c'est pareil. Soit tu rentres à la maison, tu vois le papa d'un côté, le gosse de l'autre côté avec des bleus partout, tout le monde en train de pleurer. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, je lui ai dit, amène-moi, donne-moi ton portable. Il n'a pas voulu. Je me suis énervé, il a crié, il a fait tomber le fer. La petite, elle a tiré le fer à repasser, ça fait sauter les plombs. Je me suis énervé, je l'ai déchiré. Je lui ai dit, attends, un missile pour un moustique. Tu es en train de te prendre la tête avec un gamin de 14 ans. Mais quel âge t'as? Il m'énerve. J'ai expliqué. On peut s'énerver que si on est du même âge. Vous me suivez ou non? T'as pas 14 ans, t'as 35 ans. Tu peux pas t'énerver avec un gosse de 14 ans. Sinon, c'est que t'as 14 ans. Ça n'a rien à voir. Écoute, il s'est mal conduit, j'étais très déçu par sa conduite. Ah, t'es en train de justifier là. T'es en train de fabriquer un dossier pour expliquer ta lourdeur. Mais au moment où tu t'es mis toi, moi, je vois des gens, des fois je suis choqué. On s'est battu, on était par terre tous les deux. T'es en train de te battre avec ton père. Toi déjà, t'es un malade. Toi, tu es en train de te battre avec ton fils, mais tu es un malade. Vous êtes les deux par terre en train de vous mettre des coups de poing. Rien que l'image, rien que la photo en elle-même, elle est bizarre. Elle est débile. Vous voyez? Alors, qui tu es devenu pour arriver à un état pareil? Même toi, tu as honte de toi. Alors, tu dis, il m'a poussé à bout. Je n'étais plus moi-même. J'étais hors de moi. C'est cette colère-là. C'est cette colère-là dont elle parle la Torah. Comment tu es arrivé à un truc pareil? Alors je te dis pourquoi. On a expliqué, vous rappelez toujours le miroir qui reflète, vous rappelez ou non? Pourquoi le miroir réfléchit, la personne elle réfléchit? Vous rappelez ça? Il y en a qui révisent un peu ou? Je peux redire un peu ou non? Écoutez bien ça. Ça va vous faire gagner au moins 10 ans de teshuva et au moins 13 ans de thérapie. Écoutez. Quand vous mettez devant un miroir, le miroir réfléchit votre image. D'accord. Parce qu'il y a le reflet de vous dans le miroir. Super. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu réfléchis? Il te dit, mais je ne suis pas un miroir. Effectivement. Donc pourquoi c'est le même mot en français pour dire la réflexion du miroir et la réflexion intellectuelle, je réfléchis à quelque chose. Alors pourquoi? Parce que de la même manière que quand vous mettez devant un miroir, le miroir réfléchit, c'est-à-dire que le miroir, il fabrique une image qui est le reflet de ce qui est en face du miroir. C'est bon. Et bien quand on réfléchit dans sa tête, c'est qu'on se fabrique une image personnelle de la réalité qui est devant nous. Par exemple, là vous me voyez là, vous me voyez tous. Maintenant, si vous fermez les yeux et vous réfléchissez à mon image, vous allez vous fabriquer mon image dans la tête. C'est clair? C'est toujours bon? Voilà. Maintenant, je vous dis tout de suite, on peut vivre sans réfléchir. Comme par exemple, des fois par exemple, tu regardes comme ça, mais tu vois rien. Tes yeux ne sont pas là. L'autre dit en fait, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. On dit le regard, il était éteint. Les yeux, ils étaient loin. Je n'ai pas réfléchi. Ça va? Maintenant, quand vous imaginez qu'il y a le miroir et la personne en face, donc vous voyez qu'il y a une espèce de cohérence entre la personne et le reflet. Et bien, quand toi, tu réfléchis à ta réalité, il y a une cohérence entre ta réalité et la réalité que tu réfléchis. C'est bon? Maintenant, quand toi, tu t'arrêtes de réfléchir, donc tu n'as plus une image de ta réalité, donc ta réalité pour toi n'existe plus. C'est toujours bon. Mais si entre-temps, ta réalité, elle a évolué, donc quand tu réfléchis à nouveau, c'est pas la même réalité. Tu es déçu. L'autre, ça fait 10 ans qu'il n'a pas réfléchi à sa femme. Il trouve qu'elle a vieilli. Mais s'il avait réfléchi tous les jours, il verrait qu'il aurait vu vieillir, il aurait vu qu'il a vieilli lui aussi. Comprenez ou non? L'autre, il ne réfléchit pas à ses enfants, il ne les voit pas grandir. Celui-là, il ne réfléchit pas sur sa fille. Il ne voit pas qu'elle était petite, et maintenant elle est grande, elle est formée, et les garçons la regardent. Il n'a pas réfléchi. Maintenant, c'est quoi la vie d'un homme? C'est une mosaïque avec plein de miroirs. Comme vous savez, aujourd'hui, ils font des trucs comme ça. Il y a 54 écrans. Tu peux voir toutes les chaînes de télé. Tac, tac. Comme le cabinet de surveillance. Ouais, alors, tu dis, alors ça, c'est la salle à manger. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est le garage. Ça, c'est... D'accord? Ben, toi, normalement, tu dois réfléchir. Ta femme, tu dois réfléchir ton couple, tu dois réfléchir ta religion, tu dois réfléchir ton travail, tu dois réfléchir, tu gardes tous les miroirs en même temps. Ah, pourquoi il faut avoir tous les miroirs en même temps? Bah, ça permet de rééquilibrer. Parce que si tu réfléchis trop sur ton travail et que tu ne vois pas évoluer tes enfants, c'est dangereux. Si tu es à fond sur tes problèmes personnels et que tu ne vois pas ceux des autres, c'est dangereux. Donc tu es obligé d'avoir tous les écrans. Mais alors c'est normal pour un adulte d'avoir plusieurs écrans. Ça va? Oui ou non? Voilà. Maintenant, quand tu arrêtes de réfléchir, donc tu arrêtes d'être en contact avec la réalité, au moment où tu vas te remettre dans la réalité, si entre-temps la réalité évolue et que tu n'es plus adapté à ta réalité parce que tu n'as plus le reflet de cette réalité, eh bien tu vas être obligé de surdoser l'effet. Tu vas mettre trop d'énergie. Parce que tu n'arrives pas à assumer, alors tu vas te mettre en colère. Mais je te dis cette déception. Mais laisse l'écran ouvert. Pourquoi tu fermes l'écran? Comprenez ou non? Et c'est toujours le cas, ouais. La maman, elle est plus proche des enfants que le papa. D'accord? Donc quand on annonce quelque chose qui ne va pas avec les enfants au papa, on est obligé de mettre doucement parce que lui, il les voit moins. Donc il va s'énerver. Alors maintenant qu'il a entendu le point de vue de sa femme, il va superposer son point de vue avec son point de vue et ils vont réussir à trouver un équilibre entre les deux. Mais lui, il ne peut pas le mettre. Comme lui, s'il va s'énerver, tu achètes du sucre, tu achètes ça, tu achètes... Mais, nous, quand on voit par exemple les dépenses du cachère, on pense que le magasin cachère, c'est une tentative d'homicide. Tu dis, mais c'est de la folie, mais ça va pas ta tête. Mais tu as été chez Fauchon. Tu as été chez. Il y a des trucs de chers ici, oui. Ouais. Tu comprends pas. Mais chérie, tu veux un beau Shabbat avec 50 salades, avec trois charcuteries, avec 4 viandes et 2 poissons, et tu veux que je dépense 32 euros. Va chez Lidl, va chez Rebabab. Mais si tu veux du cachère, il y a un mot que cachère, il rime pas, c'est pas cher. Eh ben, ça rime pas. Le cachère, c'est cher. C'est comme ça. C'est comme ta femme. Elle t'est très chère, et elle t'est très très chère. Il dit toujours ma chère femme. C'est vraiment ma chère femme. Oui. Et c'est, ça fait partie de la réalité. C'est pas grave. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Il faut s'adapter. Maintenant, pourquoi je ne vais pas m'adapter? Encore une fois, pourquoi? Parce que j'accepte pas une réalité. Qu'une réalité, elle a toujours des tenants, des aboutissants, elle a toujours des causes, des conséquences. L'enfant, il a besoin de proximité, la femme, elle a besoin d'épanouissement, le mari, il a besoin de respect, la maison, elle a besoin d'étrangers, la voiture, elle a besoin d'être entretenue. Ça fait partie des réalités. Donc quand je refuse une réalité, elle m'énerve. Mais non pas parce qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai un halom, je crois que quand je vais refuser la réalité, elle va disparaître. On est en plein Harry Potter. Mais c'est pas comme ça. Alors je vous dis la preuve. C'est que vous savez pourquoi les gens s'énervent? Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un de calme qui va supporter à leur place.
Parce qu'il y a...
Il sait qu'il y a quelqu'un de calme qui va supporter. Mais si le type il est tout seul, il est sur une île déserte, avec qui va s'énerver? Donc moi, mon mauvais caractère, je sais qu'il va être supporté par quelqu'un qui a un bon caractère. Ça s'appelle les montants compensatoires. Comme tu veux ou non? Alors après, il y a une espèce de commerce. Genre, j'ai un mauvais caractère, mais je te donne de l'argent. Ouais. Moi, j'ai trop dépensé, mais je te donne autre chose en nature. Alors les gens, ils font du commerce. Mais vous êtes des malades ou quoi? D'abord, quel est le taux de change? Un jour, peut-être, la monnaie n'a plus la même valeur. Il y a une dépréciation des valeurs. Que tu comptes sur ça, c'est dangereux. Au contraire, nous, on veut du lolishma balishma. On veut que les personnes, ils commencent par être intéressées, mais qu'au fur et à mesure, les valeurs, elles se développent pour qu'ils soient plus intéressés par du petit et qu'ils aient des valeurs plus grandes. Comme dans un couple, tu développes la complicité, l'harmonie, la confiance, le bien-être, la communion, la fusion. Après, le physique, yahsra. Tu dis non, tu triches, toi. Non, toi, tu prends du Viagra. Comme ça, tu dis, j'ai pas besoin de développer les bonnes qualités. Tu deviens un animal. C'est normal de vieillir. Ouais, parce qu'on vieillit. Parce que Hachem, il dit, on arrête avec ça, on commence avec autre chose. C'est pareil, les enfants. Ouais, quand ils sont petits... Tu vas être un patron, mais après tu vas être un ami, après tu vas être un partenaire, après tu vas être une confiance, une personne, mais ça prend le temps que ça prend. Mais si toi tu t'en es pas occupé, donc tu es resté le patron, et ouais, il a 28 ans, bah c'est fini maintenant. Ouais. Et tu t'énerves, et tu vas voir ce que je vais te faire, et mais tu vas rien faire du tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc ton problème c'est quoi? C'est que tu l'as pas vu grandir. Pourquoi? T'as arrêté de regarder le reflet dans le miroir, t'as arrêté de fabriquer l'image. Donc, quand tu es inadapté, tu craques et tu t'énerves. Alors maintenant, ça, c'est quand tu es jeune que tu t'énerves. Quand tu es vieux, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une déprime. Bah oui, parce que la seule manière de... Quand tu n'arrives pas à faire le chantage par l'écrit, tu fais le chantage par la victimisation. Eh ben, je vais mourir. C'est à cause de vous. Mais non, mais pourquoi? Mais tu dois vivre ta vie. On te remercie. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Et maintenant, on va faire notre vie. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants. Les enfants, on est très content de vous aider. On est très content. Et maintenant, vous allez faire votre vie. Vous comprenez cette logique? Donc, on baisse les systèmes de compensation pour que les gens, ils aillent vers l'autonomie. Mais si on augmente la compensation, ça devient du chantage. Pourquoi je vais évoluer? Parce que de toute façon, je sais que je peux compter sur toi. Pourquoi je vais être calme? Parce que de toute façon, je sais que toi, tu supportes. Pourquoi je vais arrêter de dire des gros mots? Parce que de toute façon, tu dis rien. C'est pour ça qu'on dit Mi shen bo da'at asur le rahem alav. Celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de maturité, celui qui n'a pas de conscience, il est interdit d'avoir pitié de lui. Je dis, mais pourquoi? Chas v'shalom, la Torah est miséricorde, la Torah est pitié, la Torah est amour et tolérance. On parle pas de la même. Si moi j'ai de la tolérance avec quelque chose d'intolérable, donc j'entretiens l'intolérable. Le jour où je ne suis plus tolérant, l'autre, il sait qu'il ne peut plus compter sur ma tolérance. Il est obligé de devenir bien. Donc, ça veut dire que quand moi, j'ai la conscience pour l'autre, l'autre, il ne va pas aller développer la sienne. Donc, il peut continuer à se conduire comme un gamin puisqu'il sait que c'est moi qui vais assumer. Mais quand je lui dis, il n'y a plus personne qui assume. Pas là, il y a 3 jours, hein, il est venu chez moi. Ah ben, Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mon frère, il joue aux cartes, il perd beaucoup d'argent, et qu'est-ce que je dois faire avec lui? J'ai dit, attendez, mais quel âge il a votre frère? Il dit 44 ans. J'ai dit, mais 44 ans? Mais vous l'envoyez balader. Il me dit, mais il est violent. En plus, il fait du chantage physique. Mais il va aller en prison. Harcèlement. Mais c'est mon frère. Alors, chantage moral. Chantage moral, chantage physique, chantage émotionnel. Il a gagné. Maintenant, la situation est tellement débile, je pose la question. Es-tu complice de sa lourdeur?
Qu'est-ce?
Complice. Tu es jusqu'à combien tu t'ennuies dans ta vie pour pouvoir accepter un truc pareil? Ça va? Ça veut dire que des fois, la bêtise de l'autre, elle vient combler un vide chez toi. Ça va? Il y avait une souris là. Il y avait une souris dans la pièce. Vous ne la trouvez plus. C'est qu'elle était quelque part. Il y avait une souffrance. C'est qu'elle est rentrée quelque part. Il y avait une bêtise. C'est qu'elle est rentrée quelque part. Donc il y a quelqu'un qui supporte. Maintenant, quand tu crées un espace, alors si tu crées un espace pour que l'autre grandisse, c'est bien. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22. Mais si tu crées un espace pour que l'autre grandisse à 44, c'est plus un espace, c'est un refuge. Alors comment il va grandir? C'est un refuge.
Un refuge, oui.
Comme tu veux ou non? Comment il va grandir? Parce que c'est ouais. c'est moi qui va être sa conscience. Comment il va s'assumer? C'est des fois, il faut le laisser vraiment dans la mer. Mais vraiment dans la mer. Alors il va être obligé de grandir. Tu dis, mais c'est dur quand même, quand on n'est pas heureux de se dire que. Comme tu veux. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est un équilibre entre une rigueur qui est nécessaire, oui, et celle-là, c'est une mitzvah, et une rigueur qui est incontrôlée, et celle-là, c'est la colère. Quand moi, je ne veux plus assumer, je m'énerve, donc je casse tout. Mais en vérité, je fais quoi? Je perds le contrôle. Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas être à la hauteur. Alors, on a dit une déception, explosion de colère. Une inadaptation, explosion de colère. Une peur de ne pas réussir. J'ai peur de ne pas réussir, je vais exploser. De toute façon, c'est facile le calcul. À chaque fois qu'on a surdimensionné les moyens par rapport au but, c'est qu'il y a une peur. C'est pas normal. Au contraire, il faut donner exactement la dose à chaque fois. Ce qui est nécessaire à chaque fois. Mais ça, on peut le faire quand le cerveau il maîtrise le cœur. Si le cerveau ne maîtrise pas le cœur n'a pas de limite. Et après, ça devient chronique. Ah, comment on va faire? Alors, c'est marqué dans le Zohar, Parashat Tetzaveh. Bemanoda imleit karev elav adam oleimana mimeno. Comment est-ce qu'on sait si on doit s'approcher d'un homme ou s'écarter de lui? Inebekaraso mamash adam yodea oto. Un homme, dans sa colère, on le connaît vraiment. Veyakiru mi e mi ou, on va savoir qui il est. Im shomer neshama akedusha a ibeshaat kaaso. S'il arrive à garder sa neshama sainte au moment de sa colère, shelo yaaker otam imekoma. Il ne va pas la déraciner de son endroit. Veyavo lishrod bimkoma elzar. Pour faire régner à sa place un dieu étranger. Zehu Adam Keraou, ça c'est un homme bien. Zehu Aïved Leribono, ça c'est un serviteur de son maître. Zehu Adam Hachalem, ça c'est un homme complet. De quoi on parle? Il y a une Neshama. On a expliqué déjà que la Neshama, moi je vous ai résumé, c'est elle qui développe l'énergie, d'accord? C'est elle qui développe la volonté. On appelait ça l'air comprimé. Maintenant l'air comprimé, quand tu le maîtrises, tu peux soulever des immeubles avec. Maintenant, si toi tu perds le contrôle de l'air comprimé, c'est qu'au moment où l'énergie de la Neshama elle rentre dans le cœur, on a dit il y a Yetzerara, Yetzeratov. Donc tu peux avoir une tendance positive ou une tendance négative. Maintenant, c'est toi qui décides d'aller dans la tendance positive. Ou alors, quand tu ne veux pas aller dans la tendance positive, donc tu lâches le volant, tu lâches les rênes, alors automatiquement, c'est la tendance négative qui prend en main. C'est ça ce qu'on appelle en français je ne suis plus moi-même. Maintenant, le Zohar, il appelle ça Elzar Shebegufo, un dieu étranger qui est dans le corps de l'homme. C'est exactement les mêmes mots qui sont repris dans la Gemara dans Shabbat. Elle dit, quand l'homme est coléreux, oui, un dieu étranger, c'est qui? C'est le Yetzer Hara, il est dans la personne. Donc c'est quoi le Yetzer Hara? Oui, à part que c'est celui qui te fait faire les avérotes, à part que c'est celui qui te donne les mauvaises pensées, au niveau psychologique, c'est celui qui te propose d'exister à ta place quand toi tu ne veux plus exister. T'as compris ou non? Il va exister à ta place. Ouais. Dire, toi, tu vas dire des mots, par exemple, que tu n'as jamais dit de ta vie. Tu dis, mais c'est pas possible, comment j'ai fait ça? Toi, tu vas avoir des attitudes que tu n'as jamais eues de ta vie. Comment j'ai pu avoir une attitude pareille? Toi, tu vas avoir des réactions d'une violence incroyable. Et encore une fois, tu le dis toi-même, je n'étais pas moi-même. On a dit, la personne coléreuse, elle-même, elle ne se reconnaît pas. Toi-même, tu ne la reconnais pas. Donc, ça veut dire qu'en vérité, la personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et c'est ça qui est le paradoxe. C'est que puisque la personne au moment de la colère, elle n'était pas là, oui, donc après, quand elle revient, elle ne se sent pas coupable de ce qu'elle a fait, puisqu'elle n'était pas là. Donc quand toi, tu lui reproches, elle ne comprend pas le reproche. C'est pour ça que tous les coléreux sont susceptibles. Ah bah oui, puisqu'il n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Vous suivez ou non? C'est comme si un somnambule, dans la nuit, il vient, il te met des coups de matraque. Après, il va, il dort. Le réveil, tu le matin, tu lui mets, t'es malade, regarde la vidéo, c'est toi. Il dit, moi, je dormais là. J'ai un alibi. Mais tu dors, mais en dormant, tu viens, tu me frappes. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est ça le problème. On épouse deux personnes. Nos parents sont doubles. Nos employés sont doubles. Nos amis sont doubles. Alors avec qui on parle? Il dit, la Torah, elle a interdit à quelqu'un de lâcher les rênes. C'est pour ça que la colère est génératrice d'une des plus grandes toumas qui existent. C'est qu'il y a plusieurs niveaux dans l'impureté. Et la colère, c'est générateur d'une incroyable puissance d'impureté. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'impureté? Vous savez, très bien, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, que quelqu'un, dès qu'il meurt, il devient impur. Tant que la neshama est dans le corps, la personne, elle est pure. Maintenant, dès que la neshama quitte le corps, la personne devient impure. Pourquoi? Parce que l'impureté, c'est l'état d'être de la mort. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un meurt? On dit, parce que sa neshama quitte son corps. Ça, c'est la plus simple. Mais il y a d'autres manières. C'est quoi? C'est que la neshama n'est plus en contact avec la personne. Mais alors, qu'est-ce qui relie le corps et la neshama? C'est le psychique. C'est le moi. D'accord? C'est comme si vous avez une ampoule et vous avez une pile. Quand vous allumez et qu'elle ne s'allume pas, qu'est-ce que vous dites? L'ampoule est morte. Pas du tout. Peut-être qu'il y a un petit bout de papier qui s'est mis entre la pile et l'ampoule et la lumière ne passe pas. Et bien ce petit bout de papier, il s'appelle Essia Hada'at. Perte de conscience, perte de maîtrise, refus d'assumer, infantilisation, victimisation, souffrance, peur, complexe, malaise. C'est le petit bout de papier. Le petit bout de papier, il empêche l'énergie de la neshama de passer. Or quand la neshama n'éclaire plus, ouais, le corps, automatiquement le corps il devient impur. C'est pour ça que la colère, elle est génératrice d'impureté. Parce que ce n'est pas seulement l'absence de neshama qui génère de l'impureté. C'est même le manque de contact entre la neshama et le corps. C'est pour ça que la faute, la avera rend impure. Parce que quand manque quelqu'un, il faute. Mais essia hada'at. Il enlève le da'at. Et le da'at, c'est le contact entre la neshama et le corps. Donc quand le corps ne reçoit plus l'énergie de la neshama, il devient impur. C'est pour ça que les reshaim sont appelés morts de leur vivant. Alors qu'il a encore une neshama. Mais elles n'ont plus en contact avec le corps. T'as compris cette logique? C'est pour ça qu'il a dit le Zohar. Qu'est-ce qu'il fait? Il a déraciné sa neshama, c'est-à-dire cette énergie positive qui vient de l'âme. Il l'a déraciné, et à la place, il a mis un dieu étranger. Alors il dit quoi? Il dit, cet homme-là, le contraire, celui qui fait ça, c'est-à-dire celui qui ne le fait pas, celui-là, il est Adam Raoul, il est un homme bien. Il dit, Evel Leribono, il est un serviteur de son maître. C'est qui son maître? C'est Dieu. Donc celui qui ne maîtrise pas ses impulsions et qui est facilement qui tombe dans le piège de la réaction et qui se met entre les mains du Yetzerara, il va automatiquement faire des avérotes. Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à tenir devant son fils qui l'énerve. Demain, il n'arrive pas à tenir devant une tentation de 100 000 euros. Après, il n'arrive pas à tenir devant le décolleté de la secrétaire. Alors qu'est-ce qui va le retenir? Puisque son problème, c'est qu'il n'arrive pas à se retenir. Après, il dit que Zéou Adam... Celui qui maîtrise, Zéou Adam Shalem. Shalem, ça veut dire quoi en hébreu? En français, Shalem. Entier. C'est quoi le contraire de Shalem? Manquant. Je vous ai déjà dit un million de fois que le Maharal de Prague, il dit L'Eolam Adam Chaser. Un homme est toujours manquant. C'est quoi le manque chez l'homme? C'est l'Yetzer Hara. Le yetirara, le mauvais penchant. Vous voyez, c'est lui qui crée la sensation du manque. Maintenant, le manque, il faut le combler ou le maîtriser.
Remplir.
Est-ce qu'il faut le remplir? Oui, ou il faut le maîtriser? Alors, tout le monde dit qu'il faut le maîtriser, mais tout le monde le remplit. Par exemple, quelqu'un qui a peur, ouais. La peur, c'est une sensation qui n'existe que parce que tu l'entretiens. Donc, tant que tu peux te payer le luxe d'avoir peur, tu as peur. Mais si tu n'as pas le temps d'avoir peur, ou si tu es avec quelqu'un que tu dois rassurer, donc tu ne peux pas avoir peur, eh bien, tu n'as plus peur. T'as compris ou non? Tous les manques sont des phénomènes qui n'existent que par le crédit qu'on leur donne.
Donc,
non, encore une fois, je répète. Par exemple, j'ai dit, si je n'achète pas cette jupe, je vais mourir. Parce que c'est les soldes. Oui. Kukai à 50%. Je vais mourir. Et ben, tu fais l'expérience, ne l'achète pas, et tu verras que tu n'es pas mort. Tu as déjà un téléphone qui marche. Tu dis, non, il me faut le iPhone 8. Mais il marche ton téléphone. Oui, mais tu comprends, je peux pas. Tout le monde là, j'ai vu des pubs partout. Et en plus, je suis en Amérique, il coûte 50 fois moins cher. C'est un manque. Mais normalement, quand tu maîtrises, il disparaît. Oui, s'il ne me répond pas, j'ai la haine contre lui. C'est un manque. Hein, tu le maîtrises, il n'y a plus de manque. Ça va? Tous les manques, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit En metziut lara, le mal n'a pas de réalité. Donc c'est moi qui lui donne la réalité. Oui? Quelqu'un, il veut faire une grosse bêtise. Toute son excitation, elle n'est liée qu'au fait que lui, il est en train de s'exciter. C'est lui qui crée l'excitation et elle disparaît. La preuve. Ouais. Il voit une belle femme qui est en train de se déshabiller. Ouais. Et juste à ce moment-là, sa femme, elle rentre. Et où elle est l'excitation? Chef Halin. Alors que 2 minutes avant, il dit, c'est pas possible, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est un sourd, je sais que c'est grave, mais il va la faire. Et sa femme, elle rentre, il fait plus rien. Comment il s'est calmé? Tu vois, ça s'appelle En metziut lara. Le mal n'a pas de réalité. Seulement la force du yetzer hara, ouais, c'est qu'il te fait croire que si tu ne fais pas cette faute, tu vas mourir. Elle devient vitale. Si tu ne te mets pas en colère, tu n'existes plus. Si tu ne mens pas, ça ne va pas marcher. Si tu ne voles pas, tu ne vas pas gagner. C'est lui qui crée cette illusion-là. Maintenant, toi, ou tu adhères à l'illusion ou non. C'est une tentation. Maintenant, pour y adhérer, il faut débrancher la conscience. Parce que ta conscience, elle te dit, mais ça ne marchera pas. Elle te dit, mais c'est assourd. Elle te dit, mais ça n'a pas d'avenir. Mais de toute façon, ta femme, tu l'aimes. Elle est bien avec toi. Qu'est-ce que tu es en train de chercher maintenant avec la secrétaire? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de débrancher la conscience, de devenir inconscient pour pouvoir faire. Donc, le yetzer existe. Il n'existe que parce que tu lui donnes la réalité. Et ça, c'est une grande chance. C'est toi qui lui donnes la réalité. Comme la peur, elle n'existe que parce que tu rentres dans la peur. Combien de fois je vous ai dit, la tristesse, c'est la place que tu crées, que tu donnes à ta douleur. Vous vous rappelez de ça ou non? La tristesse, c'est la place que tu donnes à ta douleur. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse. J'ai pas le temps. T'as pas le temps d'être malheureux. Et les gens, ils ont le temps. Ils ont rien à faire, ils disent, tiens, je vais me faire une petite dépression de 6 mois. Et là, ils n'ont pas le temps. Tu sais pas, il n'a pas le temps, les enfants, les trucs, la famille, il n'a pas le temps, les obligations. Ouais. L'hôtel n'a rien à faire, tout est assuré. La bonne, le mari, le frère, les soeurs, les cousins, les trucs, le psy. Il dit, bah, tiens, tu sais quoi, je vais me faire une petite dépression. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, c'est comme le gaz, ça s'étend dans un volume. Maintenant, je ne donne pas le volume. Je ne le donne pas, il n'y en a pas. C'est comme s'il voit que l'autre, il fait la gueule maintenant, il veut faire la tête. Tu dis, écoute, je t'aime, je suis bien avec toi, c'est mon mari, le père de mes enfants, c'est une soirée, elle est unique, on ne la retrouvera plus, je ne veux pas la gaspiller, je ne veux pas la perdre. Voilà. Je vais passer un bon Shabbat avec toi. Fais ce que tu veux, va prendre une douche froide, reviens, on discute. Alors, il n'y a pas moyen de s'engueuler. Non, il n'y a pas. Mais j'ai envie aujourd'hui, il n'y a pas. Trouve quelqu'un d'autre, moi je suis bien avec toi. Moi je t'adore, comment il va faire l'autre? Il n'y a pas d'espace. Comprenez ou non? Mais si tu lui donnes un peu, ah tu m'as fait ça, moi je te fais ça, hop c'est fini. Tu mets du bois, le feu il brûle. J'aurais dit, ouais, mais il faut se maîtriser. C'est une proposition, c'est une tentation. Ouais, mais c'est difficile, je réagis. Qui t'a dit qu'on a le droit de s'énerver parce que l'autre t'énerve? Mais moi je ne vais pas vous refaire le cours depuis le début à chaque fois.
possible.
Donc ça veut dire que si je ne me bats pas pour préserver quelque chose, c'est que j'ai rien à préserver. J'aime le calme, je vais garder le calme. J'aime le respect, je vais garder le respect. J'aime le shalom, je vais garder le shalom. J'aime la pureté, je vais garder la pureté. J'aime la relation que j'ai avec Hachem, je vais garder la relation. Maintenant, qu'est-ce qui me fait le Yetzer Hara? Il me dit non, c'est rien du tout, c'est du rêve. Donc le vrai, il te le rend faux, et le faux, il te le rend vrai. C'est le roi d'illusion, le prestigitateur. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il reste? Zéro. C'est pour ça que toujours quand tu fais un calcul, on te dit regarde, qu'est-ce que ça te coûte, qu'est-ce que ça te rapporte. Tu projettes, tu dis bon, je vais m'engueuler, mais qu'est-ce que ça va m'amener? Je vais m'énerver, mais qu'est-ce que ça va m'amener? Je vais dire un gros mot, soi-disant, je suis énervé, mais qu'est-ce que ça va m'amener? Ouais, j'ai dit un gros mot, ça a glacé l'ambiance. Maintenant, j'ai une tête de malpropre. L'ambiance à table, elle est pourrie. Tout ça pour un gros mot. C'est cher. C'est trop cher. Alors garde-le dans ta bouche. Ou va cracher. Il y a des endroits. Va cracher. Va cracher. Va aux toilettes et crache.
Vous savez, il y a des personnes qui se ferment dans une chambre et ils hurlent ceux qui veulent, les gros mots.
Il revient. Oui, c'est un moyen aussi. Si c'est pour pas le faire sur la tête des autres, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? On a dit que la personne elle-même, elle arrive à faire ce travail, d'accord? Alors maintenant, si on comprend ça, regardez ce qu'il dit Ravolbe. Le Orachas, Rav Simcha Zisel, il dit comme ça. Mi itel venitragel bemidat asevel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse s'habituer à la qualité de sevel, la qualité de patience? Kize shoresh kolamidot. Parce que c'est la racine de toutes les qualités. Ve aminucha. Et c'est aussi la racine de la sérénité. Ve shoresh kolamaralot. Et la racine de tous les niveaux élevés qu'on peut atteindre. C'est qu'en vérité, la colère, c'est la chose la plus haute au niveau de la gravité. Ouais. Et le contraire, la patience, c'est le niveau le plus haut au niveau des qualités, des bonnes qualités. C'est-à-dire dans les mauvaises qualités, la colère, c'est le pire. Parce que pour arriver à la colère, il faut passer par tellement d'étapes mauvaises. Donc pour arriver à la sérénité, il faut passer par tellement d'étapes bonnes. Alors il dit comme ça, « Umaï savlanout », il dit à Volbe, « qu'est-ce que c'est la patience ?» Il dit à Savlan, domé mamash le Adam anosé masakaved. Le patient, il ressemble à quelqu'un qui porte un poids très très lourd. Ve'av sheu kaved. Et malgré qu'il est lourd, mamshich la lechet bedarko. Il continue à marcher sur son chemin. Ve'eno nil elaset. Ouais, et il ne va pas pour autant s'empêcher de le porter. Donc il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique de porter un poids et une dynamique d'avancer. D'accord ? Maintenant, je vous dis la vérité. Le poids, c'est les autres. Les autres. C'est la différence des autres. D'accord? Maintenant, les autres, ils pèsent très fort. On appelle le rôle. Le rôle, c'est quoi le rôle? C'est le jogo. Ouais. Mais le rôle ressemble au mot rôle. En français. Le rôle. Rola. D'accord?
Rôle.
Sorry. D'accord, c'est le rôle. Non, maintenant je dis, celui qui joue son rôle, pour lui, ça n'est pas un rôle. C'est un jeu de mots. Celui qui joue son rôle, pour lui, ce n'est pas un joue. Celui qui ne joue pas son rôle, c'est un joue. Pourquoi ça pèse? Maintenant, quand tu prends sur toi le joue, c'est que tu prends l'obligation de jouer ton rôle. Maintenant, encore une fois, il y a le poids et il y a le fait que tu marches. Ça veut dire que la vie, il faut avancer. Ben, faut avancer, voilà. Il faut avancer. Il y a le travail, il y a le poids des responsabilités, il y a assumer, il y a la famille, et bien il faut continuer à avancer. Maintenant, je vous dis la vérité, il y en a, ils prennent le poids, ils n'avancent plus. Je suis écrasé. Ils n'avancent plus. C'est trop. Les enfants, je ne peux plus. Moi, les impôts, je ne peux plus. L'URSSAF, je ne peux plus. Les obligations de la vie, je ne peux plus. Ma femme, je ne supporte plus. Donc, ils prennent le poids, ils acceptent, mais ils ne bougent plus. Écrasé. Voilà. Il y en a, il marche, mais tu dis, mais quelle vitesse, mais quelle facilité, mais quelle fluidité. C'est normal, ils ne portent pas le poids. Ils écrasent celui-là, ils détruisent celui-là, ils bouffent celui-là, ils tuent celui-là, ils avancent très bien celui-là. Ils ne portent rien. Ouais. Celui qui ne porte pas le poids, c'est facile pour lui, quel est le problème? Et ben il dit ça, il fait n'importe quoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui part derrière pour arranger ce qui est ses dégâts. Donc pourquoi il va porter le poids? Il ne sent pas. On a dit Savlan. Il porte et il marche. Maintenant, encore une fois, quand tu avances, le poids, il change, parce que la responsabilité, elle augmente. Mais tu portes quand même. On a dit que c'est comme un arbre. Quand il est petit, l'arbre, il est fin. Il a un tronc comme ça, mais il a deux branches. Maintenant, quand il a un tronc comme ça, combien il a de branches? Des centaines. Et quand il a un tronc comme ça, comme il a de branches, des milliers. Ben, c'est quoi les branches? Ton rôle d'homme, ton rôle de père, ton rôle d'époux, ton rôle de chef d'entreprise, de responsable communautaire, d'ami, de frère, de cousin, de... combien tu portes de branches? Maintenant, normalement, au fur et à mesure que les branches ont augmenté, le tronc il s'est élargi. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils trichent. Ils augmentent les branches, ils ne grossissent pas le tronc. Donc, ils craquent. Il lui dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors tu dis, quelle branche on va couper? Il y a des branches que tu ne veux pas couper. Tu dis, bon, allez, arrête d'être responsable du club sportif. Bon, ne sois plus président de la communauté. On peut s'arranger, mais tu ne veux pas dire divorce parce que ta femme, elle a deux caractères. Tu as un ou deux enfants pour faciliter les frais.
Comment je vais faire?
T'as compris cette logique? Donc toi, normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu portes. Maintenant, la ségoula extraordinaire, c'est que le fait de porter le poids augmente les capacités de porter. C'est exactement la musculation. Plus tu portes, plus tu portes, plus tu arrives à porter. Plus tu portes, plus tu supportes. Plus tu portes, plus tu supportes, plus tu portes. Alors, ça pèse rien. C'est normal. Je vous l'ai dit plusieurs fois en rigolant, mais les gens, ils croient que je rigole. D'avoir 35 ans à 35 ans, c'est normal. Ou les gens, ils disent, c'est pas évident. Moi, je dis mieux, moi. Moi, je dis, il faut avoir 35 ans à 20 ans pour réussir à avoir 40 ans à 40 ans. Si à 20 ans, tu as 35 ans. Ouais. Quand tu arrives à 40 ans, tu as 40 ans. Quand tu arrives à 50 ans, tu as 50 ans. Moi, quand j'avais 18 ans, les gens me disaient, mais tu as 70 ans, mais tu penses comme un vieux. De réfléchir, maîtriser, voir l'avenir, savoir qui on venait, qui on... où tu vas comme ça? Oui, et aujourd'hui, à 49 ans, j'essaie de vivre en temps réel. C'est combien il faut avoir d'avance pour être à l'heure? Mais les gens à 20 ans, ils ont 8 ans. À 35 ans, ils pensent encore que c'est la faute des autres. À 55 ans, ils disent personne ne comprend. Alors quand est-ce qu'il va rentrer dans sa vie? Un gant, il faut mettre la main dedans. Quand tu mets la main, tu dis, oh ben les trois quarts des gants, ils vont bien. Mais ça fait 20 ans qu'il fait comme ça. Après, il dit, j'ai froid, personne ne comprend, mais rentre la main dans le gant. Assume tes choix. Prends ta place. Sois l'homme de la situation. Et tu vas voir que ta vie, elle te va comme un gant. C'est ça, Savlan. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, que étant donné que Hachem, il a bien réglé la vie, et que la vie, c'est un exercice de partenariat, donc il va t'augmenter les exercices au fur et à mesure que tu vas grandir. Par exemple, celui qui a 10 enfants, il n'a pas 10 enfants la première année. Il en a 1, 2, 3, 4. Maintenant, même quand un enfant il naît, il y a au moins un ou deux mois d'adaptation. Il y a un nouveau bébé qui rentre dans la maison. Alors il crie la nuit, il pleure, il truc, et le petit frère il est jaloux, et la grande sœur elle truc, elle n'a pas sa place, il faut changer la chambre, il y a un temps d'adaptation. Et pour la femme, pour le mari, il faut qu'elle dorme la nuit, il faut qu'elle dorme quand le bébé il est truqué, quand il dort. Il y a une adaptation, c'est normal. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est gentil, il crée des espaces dans lesquels nous, on se prépare pour. Donc maintenant, cet effort que j'ai fait pour m'adapter, ça fait qu'après j'ai plus de patience. Maintenant, comme la femme, elle va être plus proche de l'enfant, donc elle aura plus d'épreuves de colère, donc elle doit être plus avec l'enfant pour plus pouvoir le supporter. Maintenant, l'homme, étant donné qu'il a choisi de travailler, ouais, donc il faut qu'il se débrouille pour compenser son absence avec une proximité qui est moins longue, mais plus intense. Mais si elle n'est pas assez intense, au fur et à mesure, l'écart de la dette va augmenter. C'est comme ton comptable, il te dit, mets un peu d'argent dans la caisse, arrête de dépenser. Ah, mais ça va, il y a des clients. Arrête là, tu comptes sur quoi là? C'est du prévisionnel, il faut du réel, mets de l'argent dans le compte. Alors tu fais comme ça. Donc, tu donnes à ton travail, tu donnes à tes enfants. Tu donnes à ton travail, tu donnes à tes enfants. Donc automatiquement, tu les suis, tu comprends ce qui se passe. Si tu ne les suis pas, un jour tu as des chocs. Et là tu sais. Donc la base de la savlane, où on l'a dit, puisque la colère c'est l'inadaptation, Donc la servlanoute, ça va être un effort d'adaptation. Maintenant, étant donné que les gens, plus on attend d'eux, plus on a un potentiel d'être déçu, et qu'on a dit que une des raisons de la colère, c'est la déception, donc plus il y a un potentiel de déception, c'est parce qu'il y a un plus grand potentiel d'attente. Donc les gens dont tu attends plus, tu dois te préparer encore plus à les aimer plus pour ne pas être déçu. Ça va ? Ça s'appelle que tu anticipes. Comme un choc thermique, par exemple. Quand tu es au chaud chez toi, ouais, tu es au chaud. Tu sors dehors, tu fais... C'est un frisson, parce qu'il fait plus froid. Donc c'est le temps que ton corps s'adapte. Et bien c'est pareil. Tu dis, je vais demander quelque chose à mon fils, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Je me prépare à avoir des frissons. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Tu t'imagines la femme de ton fils comme ça, le mari de ta fille comme ça. Peut-être ça sera autre chose. Tu l'imagines comme ça, ingénieur ou la chacham, peut-être ça sera autre chose. Tu gardes des ambitions, mais en même temps, tu développes l'adaptation. Parce que tu vas dire à la fin, tu vas dire, ah, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne l'aime pas parce qu'il m'a déçu. Je ne l'aime pas parce qu'il m'a déçu. Bah, alors le bon Dieu, il doit nous haïr. Puisque on n'a pas, il n'est pas vraiment content de nous. Et quand même, il continue à nous aimer. Ouais. Donc nous, dans cette logique-là, c'est quoi? C'est que plus la personne elle est proche, et plus on sait qu'on va être obligé d'augmenter le degré de patience. Ah, maintenant, pourquoi est-ce que le bon Dieu va m'envoyer quelqu'un qui m'énerve? C'est pas quelqu'un qui m'énerve, il m'a envoyé quelqu'un qui va me permettre de travailler quelque chose que moi je dois travailler. C'est-à-dire que si on fait le calcul, ouais, le manque de l'autre, c'est ce que je dois régler chez moi. Donc moi, en vérité, c'est mon cas d'exercice, c'est l'autre. Tu veux ou non? Il faut prendre le problème à l'envers. Le bon Dieu, il a un programme pour chacun d'entre nous. Il nous envoie les exercices en fonction de ce qu'on doit atteindre. D'accord? Maintenant, les exercices, plus ils sont importants, plus ils sont proches de moi. Donc, dans mon programme, les gens que j'aime le plus sont ceux qui vont me faire évoluer le plus. Maintenant, autant que j'évolue par amour, pourquoi je vais évoluer? Par ambition ou par stress ou par haine? J'ai qu'à évoluer par amour. Donc il est gentil, le bon Dieu. Il a fait que les gens que tu aimes le plus, ils vont attendre de toi que tu donnes le meilleur de toi-même. Et en donnant le meilleur de toi-même par amour pour eux, au pire, tu vas devenir mieux.
Mieux.
D'accord, oui ou non? Les gens qui nous aiment, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ils veulent le meilleur de nous-mêmes. Et bien, en donnant le meilleur de nous-mêmes, on ne peut devenir que meilleur. Donc ça veut dire que les gens qui m'énervent, en fait, c'est des gens qui m'obligent à évoluer. C'est ça que je ne supporte pas. En fait, ce que nous, on appelle la remise en cause, ouais, Hachem, il appelle ça une invitation à être. Parce que mes enfants, ils me font grandir. Ma femme, elle me fait grandir. Mon mari me fait grandir. Comment une femme, elle devient une femme? Ben c'est à cause des attentes de son mari. Et comment un mari devient un mari? Parce qu'à cause des attentes de sa femme. Vous me suivez ou non? Ben comment un homme et une femme ils deviennent des parents? Ben à cause des attentes de leurs enfants. Ben alors comment des enfants ils deviennent des adultes? À cause des attentes de leurs parents. Ça va? Donc ça veut dire que celui qui dit, et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est la même situation. Donc exactement la même situation que pendant une heure je vous ai expliqué que c'était des causes de colère, c'est exactement la même situation qui va être des causes d'amour. La même. Mais comment je l'aborde? Si je l'aborde en tant que proposition pour grandir, grâce à la patience, ça devient une école de l'amour. Mais si je le prends comme une remise en cause, ça devient la colère et l'école de la haine. C'est la même situation. Oui? Parce qu'il n'y a aucun père qui est assez débile pour chercher à détruire son fils. Donc au pire, Il était maladroit. Il n'était pas méchant, il était maladroit. Comment non? Il t'aime, mais il est maladroit. Alors t'en veux à qui maintenant toi? Donc quand toi tu penses qu'il t'aime pas, ça intéresse qui? Ton Yetzer Hara ou ton Yetzer Hatov? Ça te fait grandir? Ça te fait pas grandir. Donc à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui s'arrange pour que tu fasses de l'immobilisme, qui t'empêche d'évoluer. Comment il fait? Il fait que toi, tu gères mal la situation. tu la juges mal. Comme tu la juges mal, au lieu de voir l'amour de ton père qui est maladroit, tu vois la haine de ton père, que genre il fait un complexe, que ton psy t'a expliqué, qui transfère le malaise qu'il a eu. Et waouh, tu vas maintenant. S'il ne t'aimait pas, il te met au monde. S'il ne t'aimait pas, il te donne à manger. Vous comprenez cette logique ou non? Et je vais dire pire encore, et vraiment ça reste entre nous. Ouais. Et même s'il ne t'aime pas. Vous me suivez ou non? Et même si vraiment il ne t'aime pas. Pourquoi toi tu vas te fabriquer ce poids-là de son non-amour pour te détruire? Même ça, je ne veux pas le prendre. Vous avez compris ou non? Même ça, je ne veux pas le porter. Pourquoi je vais le porter? Disons qu'il ne m'aime pas. Voilà. Il s'est marié de force. Il ne voulait jamais d'enfant. C'était un grand égoïste. Il pensait qu'à lui. C'est le pire. Hein? Moi, je ne pense pas. C'est un cas sur un million. Mais même si c'est ce cas-là, pourquoi est-ce que moi, je vais rester victime de ça? Je préfère, entre guillemets, me mentir et penser qu'il est maladroit, mais être vraiment moi-même, que dire la vérité qu'il ne m'aime pas et rester une victime toute ma vie. Comme tu vois un enfant, tu lui dis qu'il sait nager et il ne sait pas nager, et bien il apprend à nager. Mais si tu lui dis tu ne sais pas nager, il va se noyer. Ça va? C'est pour ça qu'on dit quand tu mens au Yetzerara, quand tu mens au Yetzerara, tu dis la vérité. Le Yetzerara, il te dit viens, tu fais la Vera, tu vas kiffer. Et toi, tu dis je peux pas faire la Vera, je suis pas salé. Alors il dit mais je peux pas salé. Oui, mais je peux faire la Vera. T'as compris? Moins par mois, ça fait plus. Oui, encore une fois, mais c'est le cours, la vérité et le mensonge. Mais c'est quoi une vérité? Une vérité, c'est ce qui amène à la vérité. Et un mensonge, c'est ce qui amène au mensonge. Donc quand toi tu dis je vais le faire, je vais réussir, tu dis mais t'en sais rien, je dis d'accord, mais je suis obligé d'y croire. Ah tu dis mais c'était pas vrai objectivement, mais je l'ai fait quand même, donc c'est bon, c'est de la vérité. Ouais, parce que je suis dans une énergie positive de faire. Mais si je crois moi que je peux créer un espace qui n'est ni d'évolution, ni de destruction, et je vais rester comme ça dans l'espace et à me poser des questions, mais il n'existe pas cet espace-là, parce que le temps il passe, tu vieillis. Ta femme, elle change, tes enfants, ils grandissent. Il n'existe pas cet espace comme ça, genre, où on peut victimiser, où on peut souffrir, où on peut... Il n'y a pas la vérité, c'est faux. C'est des espaces, c'est des séquences. Dans la séquence, il faut réfléchir. Pourquoi? Parce que dans chaque séquence, il y a des conséquences. Si tu enlèves la séquence, il reste... Bon. Donc c'est ça l'idée, ouais. Si c'est comme ça...
L'amour ou la haine. L'indifférence qui est dedans.
Mais l'indifférence, c'est la plus grande forme de haine qui existe. C'est la plus forte. Bon, on verra les cas personnels après. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Où j'étais moi? Ici, c'est marqué dans la Gemara dans Gittin. Écoutez ça. Amar Rav Yehuda, kol amatil ema yetera betorbeto, sauf ba les deshalosh averot. Tout celui qui va mettre une peur trop grande à l'intérieur de sa maison. À la fin, il va en arriver aux trois avérot les plus graves. Gilui Arayot, Shfichud Damim, Chilul Shabbat. Quelqu'un, il met une peur trop grande. Une peur. Tu dois mettre de l'autorité dans ta maison. Mais pas de l'hystérie. Vous comprenez ou non? Pas de la peur. Pas de la panique. Pas de la crise. L'enfant, il doit respecter son père, il doit respecter sa mère. Mais pas parce qu'il prend des coups, parce qu'il a peur de mourir, parce qu'il a trouvé un cadavre dans le grenier. Non. Ça s'appelle Matil Emma Yetera. Il met une peur supérieure. Comment on a commencé à moins quart, j'ai fini avec quart, c'est bon. Il dit Amar Rava Bar Bachana, Dabri Rabanan, Shlosha Dvarim, Sarichanam, Lomar, Betor Beto, Beref Shabbat. Oui, la Mishnah. Un homme, quand il rentre la veille du Shabbat, il doit dire trois choses. Isartem, Iraftem, Adilku Etaner. Est-ce que vous avez prélevé le Maaser? Est-ce que vous avez fait le Hérouf, c'est-à-dire pour pouvoir cuire pour Yom Tov et Shabbat, ou le Hérouf pour pouvoir déplacer dans les endroits? Adikou etaner, est-ce que vous avez allumé les nérotes? Regardez bien. Regardez ce qu'il dit la Mora. Tsarir, les mimrineu, benichuta. Il faut les dire avec douceur. Qui écrit de les kablemounés afin qu'ils les acceptent. La veille de Shabbat, c'est toujours le stress. Ouais. C'est une occasion de se calmer. Donc les enfants, ils veulent prendre la douche en dernier. La plaque de Shabbat, elle n'est pas prête. On a oublié le jus de raisin. L'autre, il est bloqué dans les embouteillages, il attend la dernière minute. L'autre, puisque c'est un yetzerara de s'énerver, c'est une mitzvah de parler doucement. Alors, il dit le balabait, il rentre chez lui, il dit Avez-vous prélevé le maaser? Que nous n'ayons pas une surprise quand tu amènes les fruits à table. Oh, mais il s'agit des fruits d'Israël. Alors prélève le maaser avant Shabbat, ils sont en train de la tête. Avez-vous pris la douche? Pourquoi tu t'énerves? Shabbat, il rentre à 6h. Pourquoi tu t'énerves à 6h moins 10? À 4h. Moi, comme je fais 4h, je fais le chien de garde à 4h. La douche. Allez, les petits. Vas-y, parce que les petits, ils sont plus sympas. Et à 5h, parce que nous, Blagnara, on a une équipe de foot, donc il faut prendre. Ouais. Donc, et tout le monde a pris la douche. Tout le monde a dit, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, tu vas dire la paracha. Nahataloir. Ouais. Pourquoi non? Je vais rester sur l'ordinateur, je vais travailler, je vais parler au téléphone, et je vais arriver à 5h30, je vois que personne n'a pris la douche, je vais commencer à m'énerver. Mais moi, c'est à moi de dire à 4h, prenez la douche. Vous comprenez cette logique ou non? Et je vais m'énerver qu'il y a des embouteillages, j'ai qu'à partir une heure avant. Ah, mais je peux pas, il faut que je reste le maximum, le maximum. Parce que chez Chetiamim, t'as assez melartecha, c'est écrit dans la Torah que jusqu'à la mort, tu dois rester au travail. Eh ben toi, tu vas faire kiddush sur le périphérique. Les chamaro ben Israël et ta Shabbat, la Hazot et ta Hamad. Mais non, tu viens ben Achat Ruach, ouais. Avant, les rabbins au Maroc et tout ça, à une heure, ils obligeaient les gens à fermer les magasins. Non, maintenant, c'est pas qu'ils sont à 6h moins 2. Ils courent comme ça, ils rentrent dans la douche avec la shkia. Ils sortent, ils disent Shabbat. Il ne peut même pas le mettre l'un slip, ça fait shaita. Il va. Mais non, tu viens à la hatroir, tu viens tranquille, tu prends ta douche, et tu as préparé ton petit café, vous asseyez tous les deux, et vous buvez. Nous, on fait la table le jeudi soir. Ouais. Tous les plats sont préparés, la dafina, elle est faite le jeudi, tout est prêt. On est comme deux rois assis en train de boire un café. La hatroir, pourquoi on va se prendre la tête? Pourquoi on va s'énerver? Pourquoi? Comprenez ou non? Ça sert à rien pour passer un Shabbat dans deux jours enfermés avec un fou ou une folle qui a les nerfs, tu ne peux même pas sortir. Donne la salade à ton père. Pourquoi faire? Pourquoi faire les ma'anma? Pourquoi? Pour gagner 100 euros de plus et même 10 000 euros de plus. Pour avoir la ma'anma à la maison, ça vaut combien la ma'anma? C'est pareil. Donc en vérité, c'est quoi? L'entrée de Shabbat, c'est un moment de nerfs, de stress. Donc tu anticipes. Ouais. Le départ en vacances, c'est un moment de stress. Donc tu sais que tu pars en vacances. Donc déjà la veille, tu te détends. Tu sais que tu vas partir. Non, tu t'énerves. On va rater le train. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Les sacs, les trucs, Tu veux que ça aille plus vite? Interviens. Non. Vous savez ce qu'il y a une phrase? Un gars, il a dit une phrase incroyable. Il a dit, le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs.
Ce sont eux qui ont fondé.
Les pessimistes? Non, les optimistes. T'as compris cette logique ou non? Ceux qui se plaignent tout le temps, ils peuvent se plaindre puisqu'ils font rien, donc ils ont le temps de se plaindre. Donc ça, rien n'avance. Les optimistes, ils y croient, donc ils s'investissent. Donc le monde appartient aux gens qui sont optimistes. Maintenant, tu peux râler, mais qu'est-ce que ça va changer maintenant? Puisque de toute façon, alors du coup, on part en vacances, ça devient un mal les vacances. On passe un Shabbat, ça devient un étouffement. Les devoirs, ça devient la mort. Pourquoi? Parce qu'au fond, t'as pas envie de les faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves. Tu dis, tu connais pas. Est-ce qu'on est rien? Je comprends pas. Tu veux l'aider ton fils? Alors, calme-toi. Sinon, ne t'occupe pas, paye quelqu'un qui est calme. Le Khatam Sofer, il a dit, si quelqu'un vraiment, il n'aime pas la Torah, il ne veut pas étudier avec son fils, il vaut mieux qu'il n'étudie pas avec lui, qu'il paye quelqu'un qui a l'amour de la Torah, parce qu'il va lui pourrir l'amour de la Torah. Donc il a 8 ans, il faut de la patience, il faut de l'écoute, il faut prendre du temps. Il a 18 ans, c'est une autre patience, une autre écoute. Maintenant, ça doit être un kiff. Tu en as combien des enfants pour les kiffer? Celui-là, tu l'as pourri, celui-là, tu t'es énervé, celui-là, tu l'es en horreur, celui-là. À quoi ça sert? Et cette fille, elle t'a déçu, et ce garçon, il t'a pourri. Oh, c'est ça ta vie, de cumuler des ammas. Tu dis non, tu les as mis au monde, ils sont là avec toi, donc c'est au contraire. Donc maintenant, la patience, elle devient un déclencheur, elle devient un espace d'amour. Oui, tu l'ouvres et tu mets à l'intérieur. Donc c'est, faut être très très très, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de shalom, parce qu'il y a un yetzerara du contraire. Donc c'est pourquoi, s'il y a un yetzerara de colère, et on a vu les dangers de la colère, alors vous pouvez imaginer les bienfaits qu'il peut y avoir dans la sérénité. Parce que la sérénité, tu rentres dans une maison qui est sereine, tu prends de la force, tu prends de la paix, tu prends de la sérénité, tu prends de l'harmonie, tu prends de la communion, tu prends de l'énergie positive. Mais c'est énorme. Mais Rabotai, il ne peut pas y avoir autre chose dans la marmite que ce que tu as mis. Des fois, tu rentres dans des maisons, t'as envie de t'étouffer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Donnez-moi un tabouret et une corde. Ouais. Et des fois, tu te sens bien. Tu te sens bien. Parce qu'il y a dans la maison ce qu'on a mis dans la maison. Oui, c'est pareil. Dans ton couple, il y a ce que tu as mis dans le couple. Dans les enfants, il y a. Donc au lieu de t'énerver, genre, tu dis, il ne me parle jamais. Tu devrais dire, pourquoi il ne me parle jamais? Pourquoi ils ne me font pas confiance? Tu prends le problème à l'envers. Tu dis, mais moi je l'ai fait comme ça, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Encore une fois, c'est pas pour culpabiliser. Je ne vais pas dire, on est tous des... Non, moi, j'ai les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Mais ça veut dire que c'est la remise en cause. C'est-à-dire que cet enfant-là, il va falloir fonctionner comme ça. Avec cet enfant-là, il va falloir fonctionner comme ça. Avec cette nouvelle année, il va falloir aborder comme ça. Avec ce client, il va falloir aborder comme ça. On va faire ça toute notre vie. Toute notre vie, on va faire des efforts d'adaptation. Maintenant, encore une fois, si quelqu'un, il va dire, mais c'est fatigant. Mais ça s'appelle grandir. Maintenant, dès que tu acceptes de grandir, le poids de grandir n'est plus un poids. Et c'est ça la save la noute. Oui. Maintenant, nous, toujours, on doit faire le calcul, ouais, que si nous, on a du mal à supporter, alors comment Hachem, il peut supporter? C'est pour ça que le Midrash, il dit, une fois, il y a un vieux qui est venu chez Abraham Avinu. Maintenant, Abraham, il est connu. Abraham, c'est l'hospitalité, l'hospitalité. Il y a un vieux qui est venu chez Abraham. Il est venu un vieux comme ça. Il a dit, Abraham, alors il a se donné la soupe, et elle est trop salée. Et le café, il est trop sucré. Et la chaise, elle est dure. Alors, Abraham, au bout d'un moment, il en a eu marre. Il lui a dit, bienvenue ailleurs. Ouais, ça a été repris dans les pays arabes, ça veut dire dégage. Ouais. À ce moment-là, le Midrash il dit Hachem, il a parlé à Avraham Avinu, il lui a dit où est le petit vieux qui était chez toi. Avraham il a dit écoute, il m'a tellement cassé la tête, je l'ai renvoyé. Il a dit pourquoi? Il a dit je ne l'ai pas supporté. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit et moi je te supporte bien. Je sais pas si vous. Dieu, il a dit, et moi, toi, Abraham, je te supporte. Alors, pourquoi tu ne le supportes pas? Alors, nous, on fait un calvachamor. On dit, si, déjà, Hachem, il doit supporter Abraham Avinu. Bon, Al-Sara, comment il doit nous supporter à nous? Il vaut mieux pas faire ce calvachamor. Il vaut mieux pas, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Mais d'un autre, bon, alors, on va regarder le Midrash en lui-même. Le Midrash, il quand même, et genre, Dieu, il a dit, mais je te supporte. Mais attends, Abraham, Hachem, il supporte Abraham. Alors, en réalité, l'idée, c'est quoi? C'est que la distance qui existe entre Dieu et Avraham, elle est tellement grande que Dieu, malgré la valeur d'Avraham, est obligé de faire un effort de patience. Oui. Donc ça veut dire que je ne peux pas me servir de la distance qui existe entre moi et l'autre pour expliquer pourquoi je ne suis pas patient. Au contraire, peut-être que la distance, elle a été créée comme un challenge à rattraper. D'accord? Donc la patience, c'est un espace pour l'enfant pour qu'il grandisse, et c'est un espace pour le parent pour qu'il grandisse. Maintenant, le parent, il va grandir dans l'adaptation, et l'enfant, il va grandir dans l'effort pour rattraper les attentes. Ça va? Et toutes les différences, c'est comme ça. C'est bon? Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est comme quand vous regardez un rapport de sonar. Vous savez, le sonar, et le bateau, il est sur la mer. Alors, il y a un sonar en dessous du bateau qui envoie des ondes comme ça, et sur le schéma, vous avez le relief du sol. Maintenant, comment on prend le relief du sol? En fonction du rayon. Le rayon, s'il va de là à là en une seconde, on sait qu'il y a 10 mètres. Mais s'il va de là à là en deux secondes, on sait qu'il y a 20 mètres. Donc le relief de ton intériorité, il va dépendre du sonar, c'est-à-dire du retour que tu as dans la coexistence avec l'autre. Donc celui qui supporte rien, c'est qu'il a rien. Celui qui supporte tout, c'est qu'il est tout. Maintenant, le jour où tu vas comprendre que toi et le monde entier, ça fait un, il n'y a plus rien d'insupportable. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne supportes rien? Parce que tu crois que toi et le monde, ça fait deux. Toi et le monde entier, ça fait un. C'est ça, Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, mais c'est pas comme on croit dans la rue, il faut aimer, il faut s'aimer, aimez-vous, les uns. Mais non, ça s'est vendu il y a 2000 ans, mais c'est pas le truc. C'est quoi s'aimer? C'est faire un. C'est pour ça que là-bas dans le pasouk, c'est marqué Ani Hachem. Ve'avta le'reacha kamocha, Ani Hachem. Parce qu'Hachem, il fera un, quand nous tous, on fera un. Maintenant, le jour où on comprend que l'autre, il a un morceau d'Hachem, et que moi, je suis un morceau d'Hachem, donc quand je m'engueule avec l'autre, j'empêche Dieu d'exister. Mais si moi j'accepte tout le monde et qu'Hachem il nous accepte à tous et nous tous on l'accepte à lui, maintenant il y a une fusion des trois. Alors maintenant Hachem il est un. C'est pour ça quand il lui a demandé apprends-moi toute la Torah, il a dit Ve'avta le'reacha kamocha et le reste va y développe. Mais quel rapport? Ça c'est les mitzvot ben adam la chavero et ben adam la makom. Je te dis mais comment tu crois? Si déjà tu as du mal à percevoir le bien de l'autre, tu crois que tu vas réussir à comprendre le bien d'Hachem?
Peut-être.
Donc on a créé l'autre pour être un relais pour comprendre Hachem. C'est pour ça qu'on dit que tu dois chercher le Tselem Elohim, la silhouette d'Hachem qui est dans l'autre. Maintenant, quand je respecte Hachem qui est dans l'autre, donc je respecte Hachem qui est derrière ma femme, et Hachem qui est derrière mes enfants, et Hachem, c'est-à-dire je dépasse l'individu et je regarde le projet. Alors je n'ai plus de problème. Avec qui je vais m'engueuler? Avec le programme qu'Hachem m'a préparé pour moi. Comprenez ou non? C'est comme si la banque, elle m'envoie un coursier, et moi je commence à engueuler le coursier. Mais c'est le banquier qui t'a envoyé le papier, va t'engueuler avec la banque. Et tu lui dis, ouais, c'est quoi cette lettre? Ça veut dire quoi? Vous me coupez le crédit? Il dit, mais monsieur, moi je suis le coursier. Donc en fait, ta femme c'est le coursier d'Hachem. Ton mari c'est le coursier d'Hachem. Tes enfants c'est le coursier. Donc tu t'engueules avec qui, baba? Tu t'énerves avec qui? Et là, moi, tu crois qu'il n'a pas compris? Il sait très bien. Oui? Donc la patience, en fin de compte, c'est une question d'émouna. Oui? T'as compris ou non? Voilà. Maintenant, la dame, elle a posé une très bonne question. Elle a dit, il y a une limite à la patience. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a la différence entre le fait que de ce que je sois supporté et de ce que je ne dois pas supporter, c'est la dignité. Quand je réagis avec mon amour propre, ça s'appelle de la bêtise. Mais quand l'autre il dépasse les limites de ma dignité, là j'ai pas de mitzvah de supporter. Il n'y a pas de mitzvah de supporter. Quand on détruit la dignité, ça va? Voilà. Comme ça tout le monde est content. Merci à vous. Je m'excuse. J'ai un peu dépassé les horaires.
Dimanche prochain. Se domenica prossima preferite fare alle 5 al 3 aprile, preferite a quest'ora o preferite alle 8 di sera?
C'è sicuro?
Sì, tu ne modi per fare 6 chiaro.
Alors, juste une minute, je voulais dédier le cours, les Elo Nishpat, de mon père Abraham Shimon Ben Sifra. Amen.
Amen.
Et pour Eliyahu Ben Aisha, Isaac Ben Aisha, aussi pour Soli Bat.
Soli Ben Badia.
Soli Ben
Badia.
Amen.
Miriam Ben. Ben Fortuné.
David Amen.
Ben. David Ben Léa.
Amen.
Isaac Ben Raphaël.
Amen.
Les gens décédés. On dédie le cours.
Réhoven. Réhoven Gershon Ben Abraham. Réhoven Gershon Ben Abraham. Amen.
C'est malade. Ça, c'est les décédés. Mais à Mavdil Ben Chaim Lemeti, on demande aussi une réfoua chez Lima pour tous les malades d'Israël et en particulier pour Simcha Bat Felecha.
Amen.
Soli Shlomo,
Hakim
Ben Baya,
Badia,
Menachem Mendel Ben,
Ben
Nadine Sarah,
Amen.
Le foie chez les mains,
Shlomo
Zalman Ben,
Amen.
Yonatan Ben Dvora, Isaac Ben Latif,
Ben
Latifa.
Ho detto bene.